your skin. I know you hate to.
Le RKS Food Time Show.
Food Time Show.
RKS Food Time Show de retour comme tous les lundis entre 19h et 20h30. On a un programme de folie aujourd'hui les amis, franchement on va vous régaler et se régaler bien sûr. Comme tous les soirs, vous le savez, comme tous les lundis normalement j'ai mon Kiki, mon Kevin, mais il est du côté du soleil avec sa femme, il est en voyage de noces du côté de la République Dominicaine. Je sais qu'il nous écoute, donc coucou Kevin, coucou Emma. Et avant toute chose, quelque chose vraiment d'important les amis, c'est une mission assez spéciale qu'on va dédiquer à la maman de Malek. Parce que la maman de Malek nous a quittés la semaine dernière et voilà, on lui dédie cette émission. On présente bien sûr toutes nos condoléances à la famille, à Malek, à, bien sûr aussi à Samir. On pense énormément à eux, à leurs proches et voilà, c'était important. Lui dédier cette émission. Bien sûr, j'ai aujourd'hui, mais ça c'est habituel, c'est récurrent, c'est tous les lundis, la Suède qui est avec moi. Salut la Suède.
Salut Melvin, un peu moins vaillant que d'habitude, mais
écoutez,
toujours là, toujours présent.
Mais ma Suède, on sait que t'es touché par ce terrible virus qu'est le Covid, t'es un survivant, t'as souffert ce week-end, ça va mieux là.
Ouais, je sais pas si je suis un survivant là. J'ai l'impression de voir des chauves-souris et des pangolins partout dans ma grotte là, mais ouais, franchement ça va, je tiens le coup. Bon, c'est un peu c'est là qu'on se rend compte que c'est un peu dur, mais bon, effectivement, on va s'en sortir, hein, comme le GF d'ailleurs.
Faut pas croire que c'est facile. Comme tu le dis, comme le GF, hein, on va le dire, un gros programme, ma Suède, hein, puisque on reviendra brièvement sur ce match amical face à Bourg-Perona. On aura la chance d'avoir Fred Sougé, bien sûr, qui sera avec nous pour revenir sur le mercato. Fred Sougé, on va vous le présenter, hein, c'est le rédacteur en chef de Métro Sport, de Gros Sport. Voilà, c'est toutes les infos que vous avez fraîchement et si bien dites sur le net, on l'aura avec nous, on le présentera encore après. On aura avec nous la chance aussi d'avoir Julien Converso, jeune joueur entre guillemets qui était au club de Grenoble, qui a été formé à Grenoble, qui a également connu Alain Michel en tant qu'entraîneur à Louhans-Cuiseaux et qui est aujourd'hui, ma Suède, responsable de la cellule recrutement d'Orléans.
C'est ça exactement, un Grenoblois, un de plus qui s'est fait ses classes aussi dans d'autres clubs, mais qui a commencé surtout dans le club phare de l'agglomération grenobloise. Donc c'est quelqu'un qui est né à la tronche. Il a évolué sous les ordres de Noël Tosi à l'époque.
Bien sûr.
Donc voilà, il a connu Philippe Gaudois et etc. Pas mal de joueurs. Maintenant il est donc responsable de la cellule de recrutement à Orléans. Ça fait toujours plaisir de voir des Grenoblois réussir. Même si c'est malheureusement pas dans notre club de cœur, pas chez nous, mais quand on discute avec eux et quand on a la chance de les connaître et de voir l'amour malgré tout qu'ils portent pour leur ville et leur club, ça laisse présager de belles choses à l'avenir, en sachant que des personnes comme Julien Converso ou des Nico Demirjian ou plein
bien
d'autres
sûr,
encore
sûr.
D'anciens joueurs qui sont passés par le club, ils ont tous un souhait un jour de pourquoi pas revenir. Et moi je trouve que c'est quand même vachement reconnaissant et très encourageant aussi pour une éventuelle suite un jour.
Je pense qu'on est d'accord et puis c'est ça va être bien parce qu'on, vous le savez, on est en pleine période de mercato. On a la chance d'avoir Fred Sougé qui va pouvoir nous parler plus particulièrement du GF38 et on aura aussi Julien Converso qui va pouvoir nous parler de comment ça se passe un mercato, comment ça se prépare dans sa cellule de recrutement. C'est ça qui est important aussi.
Bah oui, effectivement. Quand les gens ont de l'expérience et savent de quoi ils parlent, c'est tout de suite quand même plus intéressant que de parler dans le vide, comme on le fait sur certains sujets, par exemple en tant que simple supporter. Donc du coup, effectivement, là, entre Fred Fred Sougé qui gère quand même le site Métro Sport et qui est quand même bien renseigné d'habitude sur tout ce qui est lié au club. Et Julien du coup qui a une expérience accrue dans les phases de recrutement. Je pense qu'effectivement ça peut être vraiment très très intéressant. Alors à savoir qu'il m'a envoyé un message là, un message vocal que je ne peux pas écouter parce que je sais que c'est le dernier jour du mercato et que qui dit dernier jour du mercato dit toujours peut-être des opportunités, soit pour lui soit des départs. Donc j'espère qu'il aura pas de changement de dernière minute.
Écoute, on verra.
De l'écouter dès que possible.
On le fera comme on peut. Avant tout ça, la Suède, on va finir le programme. On va parler ensuite, après le GF 38, de la partie GF 38, de la Coupe de France. On va faire un point sur le mercato parce que cette dernière journée, vous le verrez, tant sur le GF 38, elle a été plutôt mouvementée, mais aussi du côté des équipes de L1 et des équipes internationales. Et puis on finira bien sûr avec la CAN, puisqu'on vous a promis d'en parler tout le long. Ma Suède, on va lancer tout de suite la partie GF 38. À tout de suite dans le RKS Full Time Show.
Et à tout de suite.
Tous ensemble avec le GF 38.
Et oui, tous ensemble avec le GF 38, avec toujours ce son de rapace qui nous fait du bien. Ma Suède, le GF 38, qui s'est rendu ce week-end du côté de Bourg-Perona pour un match amical à huis clos, je crois.
Alors ça, je sais pas. Je veux pas mentir. Ça, je sais pas si c'était à huis clos. Moi, je sais que j'ai une personne qui a pu s'y rendre. Après, c'est peut-être qu'il avait une accréditation un peu spécifique.
Je pensais que c'était à huis clos. J'ai pas pensé à demander.
Effectivement, c'est pas l'info que j'en ai eu. Bah après, ça a pas vraiment d'importance puisque de toute façon, ce qui était intéressant lors de ce match amical, c'était surtout de se remettre en jambe après, on va dire, la pénurie de Covid qui a touché nos joueurs. Et puis bah voilà, avec cette mini trêve qui s'est passée pour essayer de retrouver un petit peu des sensations. On peut pas dire que ça nous a beaucoup réussi.
Bah le GF 38 qui s'incline 3-0.
S'incline 3-0 face à une équipe de National 1.
Très en forme.
Bourg-Perona, qui est quand même une équipe assez bien classée, même bien classée dans son championnat. Moi, j'ai pas assisté au match. Après, bien entendu, je suis allé à la pêche au renseignement comme je le fais un peu habituellement. Donc la seule chose qu'on m'a dit, c'est que Bourg-Perona méritait amplement sa victoire, que Bourg-Perona était au-dessus. Beaucoup de déchets offensifs de la part de notre club. Donc on peut pas dire que ça change par rapport à d'habitude. Mais le coach Vincent Ognon a pu se rendre compte encore une fois de ce qui manquait à l'effectif. Ce qui est dommageable, c'est que je trouve que on avait pourtant un milieu de terrain quasi complet.
C'est ce que j'allais dire, ouais. On avait défensivement, c'était plus une revue d'effectifs, on va dire.
C'est ça, voilà. Exactement. Avec un turnover, le jeune Stradveri qui a commencé. Il y a eu une petite revue d'effectifs en défense, un petit peu en attaque aussi, avec l'incorporation de certains joueurs du groupe 2. Mais ce milieu de terrain était pourtant un milieu de terrain assez fourni, un milieu de terrain assez titulaire. Bon, voilà, mais il manquait que Ngando, qui est encore trop juste physiquement.
Voilà, Axel Ngando qui est pas loin des 100% d'après ce qu'on a entendu.
Ouais, moi j'ai hâte vraiment de pouvoir le voir à l'œuvre et puis surtout qu'il nous apporte enfin cette touche technique qui j'espère va pouvoir nous permettre de jouer un petit peu plus haut, un petit peu plus juste techniquement.
C'est un remplaçant entre Jesse Benet dans le profil et Charles Piquel. Voilà, on est un peu dans ce profil-là de 8 box to box.
Dans ce qu'on annonce, je sais que certaines personnes qui ont eu la chance de le côtoyer l'ont plus connu sur un rôle de joueur offensif un petit peu plus. Donc à voir. De toute façon, voilà, il a été ses caractéristiques sont celles d'une personne qui est à l'aise techniquement et qui peut porter un petit peu le ballon. Donc moi je me dis qu'avec un Manu Pérez en relayeur et avec lui juste au-dessus, ça peut-être être très intéressant. Voilà, donc à voir par la suite. On espère qu'il sera dans les meilleures conditions et qu'il pourra jouer dès que possible.
Bien sûr, hein, on va pas de toute manière de tirer de conclusion de ce match amical et de cette lourde défaite entre guillemets. Je crois que l'important, la Suède, c'est le match contre QRM. Elle est là, la vérité, c'est le championnat.
Effectivement, concurrent direct. On sait pertinemment qu'en ce moment on est vraiment plus que dans le dur. Voilà, je pense qu'il y a un gros besoin de confiance Voilà, il faut vraiment qu'on se remette en confiance. Ça passe par Quevilly. Voilà, on va affronter des concurrents directs pour le maintien. Donc ça va passer par ces matchs-là. Il va falloir rentrer dedans d'entrée de jeu en ayant un visage conquérant et surtout donner le meilleur de nous-mêmes en espérant qu'on voit un autre visage parce que je pense qu'on commence tous à un petit peu paniquer. Même si certaines personnes se veulent rassurantes, voilà, moi je veux bien le croire, il y a pas de problème. Moi, je crois en mon club, je crois aux capacités de notre effectif qui a montré l'année dernière quand même de belles choses. Bon, il y a eu des changements, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, certaines peu concluantes, beaucoup même peu concluantes, mais bon, voilà, maintenant il faut espérer renverser la vapeur. Et puis voilà, et se dire qu'on va y arriver tous ensemble et surtout ne pas lâcher. La deuxième partie de saison doit être palpitante et nous rassurer.
Voilà, je crois que t'as raison. On est en train de prendre peur un peu. Les supporters prennent peur, les connaisseurs prennent peur. Maintenant, voilà, il reste encore une grande partie de la saison. Bien sûr, là, que ce mois de février va être capital parce que, comme tu l'as dit, on commence avec Quevilly-Rouen qui est un adversaire à notre portée, un concurrent direct au maintien. C'est sûr que ça passe par un bon résultat, on va pas se mentir. Ça serait très compliqué de perdre ce match. Maintenant, on va voir. En tout cas, il y a des signaux qui sont plutôt au vert. Massuet, je vais te laisser joindre Fred Souget de manière à ce qu'on puisse parler mercato, parce que par contre, on a eu des bons signaux sur cette dernière journée de mercato pour le GF38. Ok, Massuet.
Ouais, effectivement, ouais. Effectivement. Je l'appelle tout de suite.
Allez, à tout de suite.
Allez, merci.
Et justement pour parler mercato, hein, on va faire un fil rouge tout le long de cette émission. Vous l'avez vu, hein, les grosses recrues. Pourquoi les grosses? Parce qu'il y en a deux du côté de l'Olympique Lyonnais avec Romain Fèvre, hein, qui vient de Brest, qui vient de signer à l'Olympique Lyonnais. Et le retour assez surprenant. Hein, on en parlait du côté du PSG et d'autres clubs, hein, d'ailleurs. Hein, et c'est finalement Tanguy Ndombele qui va rejoindre également l'Olympique Lyonnais. Ça bouge aussi un peu de partout, hein. Je vais pas vous mentir, hein, du côté des transferts, hein. Il y a Lorient aussi qui bouge énormément. On a aussi la Juventus qui est en train de nous faire un festival. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, vous le verrez. Aussi à l'OM, hein, on a encore fait une recrue de côté de l'OM. En tout cas, voilà, c'est en train de bouger. Vous le savez, c'est la dernière journée. Les connaisseurs, les recruteurs, les agents, les joueurs sont dans les starting blocks. C'est vraiment quelque chose de particulier, cette fin de mercato. En tout cas, on verra ça dans un instant avec Fred Souget pour le GF38. À tout de suite dans la partie GF38.
Tous ensemble avec le GF38.
Massuet, es-tu là?
Oh oui, toujours là. Et il m'a pas poussé des ailes encore, donc c'est bon. Je suis toujours pas déguisé en pangolin non plus.
C'est bon.
Donc c'est bon.
Eh ben écoute, y a pas de souci. On accueille avec nous Frédéric Souget. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous, merci pour l'invitation.
Ben écoute, merci à toi d'avoir répondu présent, hein. On le rappelle, Frédéric, tu es donc le rédacteur en chef de Métro Sport, de Gros Sport, tu as plusieurs noms.
Alors Gros Sport, en fait, c'est l'ancien nom de Métro Sport, hein, qui est resté le nom sur Facebook.
Parce que c'est pour ça que je le dis.
Mais on va dire que ça s'appelle Métro Sport maintenant, globalement, aujourd'hui. Et oui, ça, c'est mes activités grenobloises. Et après, professionnellement, je fais des choses un peu ailleurs aussi, un peu plus larges.
Tu parles aussi, tu sais, on parle chez nos confrères aussi de France Bleu. Je sais que tu fais aussi des reportages Twitch.
Alors, j'étais justement à France Bleu Isère. Pour faire rapidement sur la question, l'essentiel de mon activité professionnelle, c'est journaliste pour Foot Amateur, footamateur.fr, s'il y a des curieux qui veulent aller voir à quoi ça ressemble.
Bien sûr.
Qui est un média national qui, comme son nom l'indique, parle de foot amateur. Je suis à plein temps là-bas. On va dire que le reste, c'est plus du plaisir personnel, même si des fois, traiter le GF38, c'est compliqué.
Ça fait mal,
des fois. On parlera sûrement encore de l'émission. Voilà, mais le reste, c'est un peu plus du plaisir personnel. Mais aujourd'hui, on va dire que les activités locales, allez, c'est 10% de mon activité professionnelle totale.
D'accord.
Donc, du coup, tu fais ça par amour pour ta ville et puis pour ton département, faut le dire.
Ouais, je fais ça parce que j'aime ces clubs que je connais depuis longtemps, parce que c'est aussi des sujets dont j'aime parler, parce que GF38, c'est mon club aussi depuis longtemps. Donc, forcément, j'y trouve aussi un plaisir égoïste, on va dire. c'est toujours plus agréable de pouvoir faire des choses qui nous passionnent, en fait. Donc, tout le monde y trouve son compte, mais non, il y a un plaisir égoïste aussi derrière. C'est quand même un gros luxe, et j'en ai conscience, de pouvoir parler du GF38 professionnellement parlant.
Alors justement, on sait que t'es expert en la matière au niveau recrutement. Sur cette dernière journée, on sait que on a vu beaucoup d'articles hein, qui sont passés, notamment ces derniers temps, sur des pistes hein, qu'avait le GF38. Fred, tu vas pouvoir nous annoncer quels sont les joueurs qui viennent, mais en tout cas, c'est finalement une bonne dernière journée de recrutement pour le GF38, une bonne surprise.
Ouais, alors déjà, j'avais pas prévu aujourd'hui de bosser sur le mercato. Je savais qu'il allait y avoir beaucoup de choses, mais je m'étais dit qu'il y avait d'autres choses à faire. Et puis, on rebascule sur la passion. Donc, au final, on met le travail à faire au quotidien un peu de côté et on rebascule sur le GF38 pour faire beaucoup de choses en plus sur le GF38. Après, les dernières grosses journées du GF38, c'est un peu habituel, hein, parce que je me souviens notamment que sur un des derniers mercato estivales, on avait eu un Manu Pérez, un David Hennen et un Louris Ferré le dernier jour aussi.
Ouais,
on avait eu Mchangama qui était parti aussi 3 heures avant un match le dernier jour du mercato.
Max Marty est coutumier du dernier jour de mercato.
Voilà, après il n'y a pas que Grenoble, hein. Malheureusement il y a 31 jours de mercato et j'ai l'impression que les clubs, 90% des transferts c'est le dernier jour. Donc tout le monde s'affole et du coup ça fait des grosses journées. Après, bonne surprise, oui, clairement, parce que la mauvaise surprise, ça aurait été qu'il n'y ait pas de mercato, en fait, hein, finalement, et que personne n'arrive.
On a eu peur. Hein.
Donc, très clairement, le fait qu'il y ait eu des arrivées, c'est déjà une bonne nouvelle en soi.
La première, Axel Ngando, hein, qui est arrivé il y a 15 jours à peu près,
oui.
Qui était déjà une bonne surprise sur le papier. Maintenant, on demande à voir, parce que c'est un profil de joueur, Fred, qui nous semble plutôt intéressant à guérir pour la Ligue 2.
Alors, c'est un super résumé que tu as fait. Sur le papier, le recrutement du GF38 est intéressant. Que ce soit Ngando, que ce soit Jordan Tell. Maintenant, faut voir à l'usage, hein, sur le terrain, ce que ça donne. Mais oui, Axel Ngando, c'est quand même un joueur qui a des expériences à l'étranger, qui a des expériences en Ligue 1, qui a été champion du monde U20 avec l'équipe de France en 2013, qui jouait à Auxerre, qui jouait le haut de tableau l'an passé. Alors, par contre, Axel Ngando, c'est un joueur qui sort d'une longue blessure, qui a pas joué depuis 9 mois, donc il va falloir être patient. Mais très clairement, c'est un peu le chaînon manquant qui nous manquait depuis le départ de Jesse Bonnet, en fait. L'élément qui est capable de créer un peu de lien et de donner la dernière passe à nos attaquants. Parce qu'au-delà de l'inefficacité de nos attaquants, il y a peu d'occasions qui sont créées aussi globalement. Donc aujourd'hui, avoir Ngando, c'est aussi peut-être libérer Yuri Kravé, qui aura peut-être un peu plus de temps, un peu plus d'espace. Il y a un deuxième joueur qui est un peu dangereux dans sa zone. Donc ouais, pour moi, c'est une très très belle recrue sur le papier et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner sur le terrain.
C'est très juste ce que tu dis, parce que aujourd'hui, on reproche souvent au GF38 d'être inefficace, mais l'inefficacité, c'est pas seulement devant le but. Parce que c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis, on se crée très peu d'occasions, on va pas se mentir. On est une des attaques de Ligue 2 qui se crée le moins d'occasions, et c'est aussi de bon augure, comme tu le dis, de voir peut-être Yuri Kravé se recentrer un peu plus sur son vrai poste, sur un couloir, peut-être pour aller plus dans la percussion. Je pense que tu as bien résumé aussi, c'est un bon profil Ngando. Et maintenant, on va parler de Jordan Tell. Tu en avais parlé, je crois. On s'y attendait pas.
J'en avais parlé, mais pour le coup, pour dire que la piste s'était refroidie.
Exactement.
En fait, situation, voilà.
C'est pour ça que je dis qu'on s'y attendait pas, parce que finalement, c'est un joueur de 24 ans qui a quelques matchs en Ligue 1, qui est plutôt un joueur qui a bien réussi à Clermont sur ces 2 dernières années, mais qui était barré par un bio stratosphérique. Donc, c'est difficile de se faire une réalité.
Alors, en fait, c'est ça. Sur Jordan Tell, il y a plusieurs lectures. On peut regarder ses stats. Sont pas faramineuses, puisqu'il a marqué 6 buts en 2 ans, dont 3 buts en Coupe de France sur les 2 années, donc 3 buts en championnat entre la Ligue 2 et la Ligue 1.
Toujours mieux que Raspentino, excusez-moi.
Toujours mieux que la quenelle de Raspentino. On le sait.
Et c'est mieux qu'Anani sur la première partie de saison, par exemple, aussi. Ou c'est mieux que David Hennen, voilà, ou c'est mieux que plein de joueurs. Ça, c'est la lecture statistique. Après, la lecture non statistique, c'est déjà que sa saison à Caen, il a été blessé la moitié de la saison, donc il a fait 5 matchs. Ensuite, c'est que Clermont est malgré tout allé le chercher pour remplacer Garbic, qui était le meilleur buteur de Ligue 2. Moi, je fais confiance à l'entraîneur de Clermont, Pascal Gastien, d'être allé chercher un mec, c'est qu'il y a eu des qualités derrière. Et effectivement, comme tu le disais, sa malchance, c'est que quand il arrive à Clermont, il y a un certain Momo Bayo qui se révèle et qui est indélogeable, en fait, concrètement derrière. J'en discutais un peu avec un supporter de Clermont cet après-midi qui me disait, mais Pascal Gastien ne le sortait jamais, en fait. C'est-à-dire que le mec jouait tout le temps, toutes les 90 minutes.
Oui, c'est...
Donc effectivement, quand il jouait, c'était sur le côté, qui était pas son vrai poste. D'où aussi le fait de moins marquer, d'où le fait d'être moins en confiance. Donc il y a ces deux aspects-là. Là, on est plutôt sur un joueur jeune, en plus. Bah, 24... Donc, je trouve ça plutôt intéressant.
24 ans, et tu peux nous le confirmer, c'est un profil de pointe. Hein. On n'est pas sur un joueur de couloir. Hein.
C'est un profil de pointe qui a joué dans le couloir à Clermont parce que du coup, il y avait Bayou en pointe et que Bayou, bah, logiquement, a pris la place de titulaire vu ses prestations. Donc, il rendait service sur un côté. Mais c'est un joueur avant tout de pointe, un joueur axial, effectivement. Axial Ngondo, pardon, je mélange sur les recrues. J'imagine... vu les besoins du GF 38 uniquement pour jouer à cette position-là.
On est d'accord, c'est pour ça. On a eu beaucoup de pistes qui étaient plus peut-être des profils de couloir. Là, les besoins étaient vraiment sur un quelqu'un de pointe qui va peser. Là, on y répond. Je suis assez surpris d'ailleurs d'un mec comme Jordan Tell parce que je m'attendais à encore un sorti du chapeau parce que ce mercato n'est pas exceptionnel. On va pas se mentir sur le mercato d'été en tout cas. En tout cas, je pense que c'est une belle surprise et que je demande à voir. Fred, la chose qui est importante à dire, c'est que c'est un joueur déjà qui est prêt physiquement. Ça, c'est très important. L'autre chose à dire, c'est que Clermont-Grenoble, on reste sur la même région Auvergne-Rhône-Alpes, on reste sur un même climat, une même taille de ville. Niveau adaptation, ça devrait pas être trop compliqué non plus.
Oui, il est sur un club un peu familial, on va dire, pour résumer un peu tout ça, aussi bien à Clermont qu'avec Grenoble. Il arrive, comme tu l'as dit, il est prêt. Il a même marqué son premier but de la saison il n'y a pas longtemps. En plus, ça a donné la victoire à Clermont, donc c'était sans doute très bon pour la confiance derrière. Moi, il y a un point qui me paraît important, c'est qu'il n'arrive pas en prêt. Voilà, et à un moment donné, dans ce mercato, on disait beaucoup, Grenoble va prendre en Ligue 1 un attaquant un peu en manque de temps de jeu, mais plus sous un format prêt. Là, pour le coup, il arrive alors sur un contrat qui est relativement court, hein, c'est un an et demi seulement, mais il n'arrive pas en prêt. Généralement, on sait que les joueurs qui sont là en prêt, les deux derniers mois du prêt, bah, leur priorité, c'est de ne pas se blesser en fait avant son arrivée. Alors, là, au moins, on n'aura pas ce type de problème-là. On aura quelqu'un qui est investi jusqu'au bout de la saison. Donc, c'est un point important. Donc, après, ça va être à lui de nous démontrer sur le terrain bah, que le bien qu'on peut penser de lui n'est pas usurpé et que ça peut être une vraie plus-value aujourd'hui pour Grenoble.
Une question se pose justement sur ce contrat de 18 mois. Est-ce que tu penses qu'il y a un deal peut-être avec un retour à Clermont? Parce que c'est assez surprenant, un contrat de 18 mois. Ça veut presque dire qu'il partira quasiment sûr, gratuit, à moins de retournement de situation.
Alors, j'ai pas eu l'occasion encore d'en parler avec les dirigeants Grenoble. Ce sera sans doute une question que je vais poser. Mais en plus, ça m'a marqué qu'il y a eu, à deux fois dans le communiqué du club, il est marqué minimum un an et demi. D'habitude, ils le font jamais. Ça sous-entend fortement qu'il y ait des clauses. Alors après, est-ce que pour attirer un joueur qui était en Ligue 1, en Ligue 2, on lui a proposé un contrat plus court? J'imagine aussi qu'en cas de descente nationale, on ne le reverra pas. Ça, j'en suis à peu près sûr et certain. Il y a dû avoir des causes en cas de descente, de choses comme ça. Est-ce qu'après, pour l'attirer, on lui a dit, on te file un contrat court, comme ça, si tu brilles, tu peux partir plus facilement. Ou alors, il y aura revalorisation salariale rapidement, puisque finalement, on va arriver en juin, il sera en fin de contrat l'année d'après.
C'est
donc,
ça.
Si on veut en tirer quelque chose, s'il doit partir, il faudra le reprolonger, on le vend tout de suite, en fait. Hein. Donc, je pense que c'est plus un deal pour l'attirer, parce que, l'air de rien, je pense qu'en Ligue 1, ils avaient un salaire qui était largement au-dessus que ce que peut proposer le GF 38, pardon.
On connaît. C'est difficile à dire. On connaît.
Voilà, même si a priori il y a eu une petite augmentation à ce niveau-là, il y a une petite enveloppe qui a été donnée pour pouvoir donner un peu plus que le salary cap habituel.
Ouais, mais je crois
qu'on est quand même très en dessous de ce qu'il gagne en Ligue 1.
Voilà.
Donc il y a forcément des points qui ont été. Oui.
À un moment donné,
Non,
je t'en prie. Non, mais je pense que ce que tu dis, c'est juste. C'est certainement le joueur qui aura le plus gros salaire aujourd'hui dans la salle de GF 38. Maintenant, je pense que c'était nécessaire à un moment où le GF 38 est dans le mal. Les supporters ont souvent réclamé que Max et que le président mettent la main à la poche. Je crois que c'est une bonne réponse, même si on sait qu'il a certainement dû diviser son salaire par deux ou un peu moins. Mais en tout cas, c'est une belle preuve qu'on a des ambitions de rester en Ligue 2, si je puis dire.
Mais surtout, c'est un bon profil déjà aussi.
C'est un
joueur avec un bon profil où on est quasiment sûr de pas se tromper déjà sur sa position ou sur son envie de bien faire. Parce qu'un joueur à 24 ans, il est obligé pour sa carrière professionnelle de se mettre en avant et de montrer qu'il est pas rouillé. Donc là-dessus, moi je suis très étonné et je trouve que c'est une très bonne pioche. Donc je suis le premier à critiquer quand je trouve que ça va pas, mais là c'est avec un super étonnement que j'approuve complètement l'arrivée de Jordan Tell.
Non, bien sûr.
Ce qui est dommage, c'est qu'on ait l'impression que ce soit un peu un recrutement le dos au mur finalement, où on se dit en hiver qu'on ne peut plus faire Paris, il nous faut du joueur qui soit adaptable tout de suite, qui soit pas adaptable en fait, qui soit prêt pour la Ligue 2 tout de suite,
et qui
nous fasse maintenir. Il y a eu une interview il y a pas longtemps de Max Marti dans le Dauphiné où il disait on n'est pas inquiet, on n'est pas dans l'urgence. Moi je pense que c'est exactement le contraire en fait en interne depuis le début du mois de janvier.
C'était panique à bord.
Il y a eu beaucoup d'échecs en termes de recrutement. et qu'ils ont bien compris qu'on était justement dans l'urgence et qu'on pouvait plus se permettre de faire des paris avec des joueurs qui arrivent de Finlande, d'Azerbaïdjan ou des je ne sais où. Et du coup, on a rebasculé sur des profils un peu plus connus, qui sont aussi un peu plus chers, hein, parce que je pense qu'Edmondo, pareil, il doit avoir un des bons salaires de l'effectif aujourd'hui, vu son CV derrière. Mais aujourd'hui, on est obligé, en fait. Parce que s'il n'y a pas ces joueurs-là qui arrivent, déjà que la situation n'est pas très reluisante, je pense que Grenoble allait droit dans le mur sans renfort offensif, hein, très clairement.
Jordan Tell, c'est un joueur qui est qualifié pour le match contre Quevilly-Rouen?
Oui, oui, je pense qu'il sera de la partie. Hein. Alors, il y a sans doute un petit temps d'adaptation pour un peu connaître ses coéquipiers, les déplacements, des choses comme ça. Mais à minima dans le groupe, entre en fin de match ou des choses comme ça, je pense qu'il sera présent. De mémoire, on devrait aussi récupérer Anani qui a dû finir de purger sa suspension. À moins qu'il lui reste un match, peut-être.
Il me semble pas. Je crois qu'on le récupère là. On le récupère.
Et Axel Ngondo, a priori, lui, en tout cas, espère jouer. Axel Ngondo.
Ouais, on le dit prêt à 80%, 90% physiquement.
Alors il était au téléphone avec vos contrats de France Bleu Hiver.
Tout à fait.
Pardon, juste avant. Voilà, et lui effectivement, c'était en mode voilà, moi si je peux jouer, je jouerai. Effectivement, il y a ce côté 80%, on est pour un peu dans la certitude, hein. C'est un joueur qui a plus joué depuis 9 mois quand même.
Non, voilà. Mais complètement.
Il faut quand même pas prendre de risque avec ces joueurs-là. Hein.
Voilà, et il faut surtout pas prendre de risque. De temps en temps, il vaut mieux attendre une semaine de plus et être sûr que le joueur se reblesse pas derrière. Par contre, là, ça fait quand même un mois qu'il est en phase de reprise. Il a été un peu ralenti par le Covid qu'il a attrapé. Suédois, c'est être vivant, parce que de temps en temps, c'est difficile de s'en remettre. Hein.
Exactement.
Ouais, il galère, là.
Mais lui, en tout cas, a envie d'être présent sur la pelouse. Je pense que ça lui manque aussi, hein, au bout de 9 mois, forcément, a envie de montrer ce dont il est capable dès samedi contre QRM. C'est un match très important, en plus, pour Grenoble.
Bah, bien sûr, ouais, c'est ce qu'on disait. Et côté départ, on a vu, donc, là, Sivels Brack, qui a été prêté, apparemment.
Oui. Ouais, alors Brack, Gokeni aussi, je crois que c'est officiel.
Ouais, tout à fait.
Moi, on avait parlé de Boissy aussi, mais après, c'est peut-être difficile de lui trouver un club qui l'intéresse lui et un club qui s'intéresse à lui.
Tu sais, Sylvestre ouais, Brack, c'était deux, pas ouais. simple non plus. Hein.
Voilà.
On va se mentir.
On dira ça comme ça. Ouais. Et je sais aussi qu'on a accordé un bon sortie à David Hennen, qui, s'il a un club, peut partir, en fait. Après, bah, la problématique, c'est que, bah, pareil, il reste un jour de mercato, donc il faut trouver aussi les clubs derrière. Là, on est plus, mis à part le cas d'Avid Enem qui est un peu différent, on est plus sur prêter des jeunes joueurs qui n'auraient pas eu tant de jeux de toute façon sur la deuxième partie de saison.
Oui, parce que c'est des joueurs qui vont être prêtés en N2. Hein.
Effectivement.
En N2 en plus, hein, je crois que Sivels Brack va être prêté en N2, hein, c'est ça?
En N2 à Moulin-Isère. Ouais. Gokeni, c'est en N2 aussi au Canet en Roussillon. Et a priori, ça serait aussi, si jamais il part, sur du N2 pour Olivier Boissy. Donc, ce qui reste quand même un niveau un peu plus intéressant que la réserve grenobloise. Je pense à un Sylvestre Brack, notamment, qui n'a pas grand-chose à faire en Régional 1. La Ligue 2, c'est peut-être une marche encore un peu haute.
Ouais, je suis d'accord.
Il a vraiment besoin de jouer, et de beaucoup jouer, si ce n'est en National, au moins en National 2, bah, pour continuer de progresser, en fait, surtout à son âge.
Non, mais en plus, Heather, on est sur une équipe qui joue les premiers rôles en N2. Ouais, c'est cohérent.
Ils sont troisième de leur poule. Là aussi, on est sur un club familial, plutôt sympathique. Mmh. Moi, je les connais bien là-bas. Ils sont vraiment très sympas. Je pense qu'il a tout pour s'épanouir, en fait. Donc, il sera pas choqué pour le climat non plus, connaissant.
Heather ne sera pas choqué. Est-ce que ça veut dire, par contre, que le GF38 est encore en train de travailler dans les dernières heures sur un défenseur?
Alors logiquement, il y a un défenseur qui est même déjà arrivé d'après le Parisien. Je vais juste relire son nom parce que je le maîtrise pas encore complètement. Je voudrais pas mal
ouais.
le dire.
Ouais,
c'est
ouais,
Alan Chapchet. Voilà, je sais pas si ça se prononce comme ça. Sachant que moi, on avait parlé effectivement depuis ce week-end de l'arrivée d'un défenseur. C'est un peu surprenant parce que bah, c'est pas forcément le poste où on s'attendait à une arrivée sous Stralman et de retour aussi. Hein. C'est une bonne nouvelle, bonne nouvelle en plus pour la rotation de l'effectif. Hein. Mais vu qu'on prête effectivement nos jeunes joueurs, il y aurait ce joueur-là, alors que moi je ne le connaissais pas du tout, hein. J'ai regardé un peu le profil, c'est un mec qui a été formé au CR, qui est parti très jeune en Angleterre à Southampton, qui a joué un peu dans les équipes jeunes de Southampton, qui a un match en première ligue, une défaite 9-0 à Manchester United, donc c'est pas forcément un grand souvenir pour lui.
Voilà. C'est pas le meilleur.
Fred, vas-y s'il te plaît, arrête, tu me fais des...
Mais il arrive en numéro 4. Voilà, pour remplacer Adrien Montré, il n'arrive pas pour remplacer Loïc Nestor, il sera derrière Stralman dans la rotation s'il arrive. Pour l'instant, on n'a pas été officialisé. Et c'est clairement le remplaçant de Sylvestre Brack. Par contre, il aurait signé jusqu'en 2024. Bah, ça veut quand même dire qu'on lui fait confiance sur la durée. Pourquoi pas? Voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis pas plus emballé que ça, mais je pense qu'on le verra pas sur les pouces de Ligue 2 ou très peu sur les pouces de Ligue 2 cette saison de toute façon.
Ouais, donc, mais ça permet peut-être d'étoffer. Ça permet peut-être d'étoffer et aussi de venir renforcer peut-être la réserve sur quelques matchs, hein, qui a besoin de jouer les premiers rôles, et parce que c'est difficile la première partie
sans
de saison.
Sans doute, après, si c'est pour renforcer la réserve, on peut garder Sylvestre Brac et Gauthény. Moi, je suis toujours un peu déçu. Un Strasery qui a fait pas mal de groupes, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on va pas plus le valoriser, lui, sur un poste de quatrième défenseur?
Je suis d'accord avec toi.
Groupes de temps en temps.
Je suis entièrement d'accord.
Peut-être que c'est une super pépite et que dans 10 ans on va le vendre 25 millions, j'en sais rien, mais sur le papier là comme ça, je suis pas autant tel et Mando, oui, autant ce profil là, voilà, c'est aller chercher des choses qu'on pourrait faire grandir en notre sein en fait. Voilà, c'est encore aussi un mauvais message pour moi qu'on envoie derrière, y compris d'ailleurs éventuellement à Sylvestre Brac et à Gauthény, en leur disant bah on préfère aller chercher un mec qui est en Angleterre et qu'on connaît pas, que de faire confiance à vous aussi dans les
équipes. Hein. Alors moi, si je peux me permettre, effectivement, je suis totalement de ton avis à ce niveau-là. J'ai rien contre ce joueur-là que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève et qui viendra avec grand plaisir dans nos rangs et qui, j'espère, fera de belles choses. Pour revenir sur Sylvestre Brac et Gauthény, effectivement, pour moi, Sylvestre Brac est, je le dis souvent dans l'émission, est pour moi un cran au-dessous du niveau Ligue 2. Je pense même que parfois, il a du mal à avoir même le niveau national, ça reste mon avis personnel. Par contre, je sais que c'est un joueur avec une super mentalité, effectivement, et j'espère qu'il aura l'occasion de se montrer du côté de Moulins-Isard, parce qu'effectivement, c'est peut-être une belle chose. Mais effectivement, le message que l'on passe encore à nos jeunes joueurs, comme tu disais avec Strasery, le fait de recruter quelqu'un alors que en réserve, on pourrait faire monter ne serait-ce que quelques matchs des joueurs qui sont du cru ou qui sont de l'équipe réserve ou voire même du centre de formation, je trouve ça quand même dommageable. Et on est en train de reproduire ces erreurs qui peuvent paraître petites dans la tête de certains, mais qui sont à la fois énormes et qui peuvent avoir des conséquences énormes sur la vision des jeunes joueurs grenoblois sur le club. Et aujourd'hui, on en a entendu parler je ne sais combien de fois, mais si le club continue à faire ces erreurs-là et à ne pas miser sur les jeunes de la réserve, on va au-delà de grandes déconvenues et c'est ça qui est dommageable.
Après, Massuette, quand même, depuis l'arrivée de Vincent Ognon, on a vu le jeune Geno, on a vu le jeune Belkeir, le jeune Strasery. Peut-être que,
oui.
Fred, je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être que Vincent Ognon aura plus ce profil de coach à faire rentrer des joueurs de la réserve. Pour essayer du moins de leur faire toucher quelque chose et de les aguerrir.
Alors je pense que Jaco Bacci l'avait aussi un tout petit peu, hein. Il avait fait jouer Cissé par exemple, qui n'était pas forcément dans les plans un peu, on va dire, du groupe Ligue 2 cette saison. Gino, c'est un super exemple. Alors il n'a pas été formé à Grenoble, par contre on voit qu'en allant chercher des mecs pour la réserve qu'on paye 3 fois rien, bah 6 mois après on les prépare à des Argentins qu'on va chercher en Pologne qu'on paye 5 fois plus.
Donc on ne citera pas ce joueur.
La politique aussi de temps en temps. Alors je dis pas que tout, alors très loin de là, mais alors je pense pas que tous les jeunes qui sont à Grenoble peuvent réussir à un moment donné à être en pro. Mais je crois que vous êtes des anciens sur de la table. Moi, je me rappelle d'un Logan Alphan que je suivais beaucoup.
Oh là là, mon Logan. On le salue, voilà, Logan.
Qui était un joueur exemplaire avec la réserve.
Capitaine de la réserve, Logan.
Qui avait sans doute pas le niveau Ligue 2. Il a été sur quelques
matchs.
Il a fait 2-3 bons matchs, etc. Mais des joueurs comme ça, on en a besoin, en fait. Pour maintenant en CFA2, à l'époque, on l'a mordu.
Des Logan Alphan, des Mathieu Gianni. Des Mathieu Gianni,
c'est ça. Donc, on a besoin de ce genre de joueurs-là, plutôt que d'aller chercher des fois des gens de n'importe où, au final, qu'on ne connaît pas, qui vont rester un an, qui sont pas très concernés. Moi, j'ai rien contre Manuel de Riondo, mais j'ai l'impression que le mec, c'est un Erasmus, en fait. Il fait du tourisme. Grenoble est 17e de Ligue 2. Grenoble est 17e de Ligue 2. Moi, j'ai envie de voir des joueurs qui sont concernés, des joueurs qui sont en colère, des joueurs qui vont faire des exercices en salle un peu plus souvent. J'ai pas envie de voir des mecs qui visitent l'Europe entière après des défaites honteuses, parfois même d'ailleurs. Donc, de temps en temps, d'avoir des joueurs en son plein, même s'ils sont un peu moins bons, bah, l'état d'esprit, il est peut-être un peu meilleur. Le
mais
concerné,
oui.
Peut-être un peu supérieur aussi. Et ces mecs-là, bah, on peut s'appuyer aussi sur eux dans le projet de structuration, parce qu'il faut que la réserve remonte. Ça, c'est un très, très gros point, parce que là, en R1, c'est compliqué de mettre en place des choses.
Ça va être très, très dur.
Oui, ça va être dur cette année.
Mais c'est Mathieu Cianci, il fout le bordel avec
Mathieu,
son équipe de cette
Mathieu Cianci, on l'a dit. Il fout le bordel.
Mathieu
Cianci, ça fait 6 mois qu'il nous dit qu'il ne gagne plus un match, mais il est premier. Donc à un moment donné, voilà. Non, mais c'est triste, hein, parce qu'en R1, on voit que c'est très dur. Hein. Il y a Aix-les-Bains qui a une grosse série. C'est Ciné aussi. On voit aussi des réserves de Bourg, de Limonest. Oui. Ça va être dur pour GF38. Hein. Et pourtant.
Ah, mais c'est toujours dur. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Si chaque année. Moi, le problème que j'ai avec la réserve, en fait, c'est que chaque année, on prend des joueurs N2, N3, pourquoi pas, mais que c'est que l'année suivante, ils partent tous, ou la moitié part, ou les trois quarts partent, et pour recommencer, en fait, derrière. Essayons aussi de construire une équipe sur la durée, en fait. Alors là, il y a eu le Covid, c'est un peu particulier, c'est difficile aussi de construire quelque chose. Mais un Dizbouzid, concrètement, qui était mieux l'an passé, bah, il est resté un an, il est reparti. Le petit Renou, pareil. N'arrive pas à les garder, parce que genre, pourquoi, je ne sais pas. Bah, ça n'est sans doute pas non plus, bah, parce qu'on leur promet sans doute des choses et qu'on leur, on tient pas les promesses, j'imagine que c'est ça. Après, j'ai pas la réponse concrète derrière, donc je me permettrai pas d'assumer. C'est ma réflexion, mais c'est pas une connaissance, en tout cas, de la situation, mais j'imagine que c'est ça, oui. Mais et après, on construit rien du tout, en fait.
L'équilibre.
Donc, il faut reconstruire à chaque fois.
L'équilibre, il est très dur parce que tu as un profil de R1, de joueur qui devrait être justement pas du tout dans ce contexte-là où on voit qu'il y a des préparateurs physiques, des kinés pour la réserve. Va assassiner, va leur demander, c'est pas la même. À Echerol, c'est pas la même non plus. Malheureusement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est qu'on fait venir des profils de joueurs qui sont pas forcément aptes pour la R1 et le défi physique qu'il y a. Je pense qu'elle est là, l'erreur, aujourd'hui. C'est qu'on devrait peut-être reconstruire, comme tu le dis, avec des joueurs qui ont plus la dalle, qui sont plus aguerris à jouer en R1, et construire sur l'avenir.
Et surtout leur laisser des cartes en main. On va leur poser la question aux joueurs de la réserve, dont certains jouaient au N2 ou au N3 l'an dernier, qui doivent aller jouer avec l'équipe 3 en R3, parce que Deriando, Boissy, Yannick Marchand, Bounjaku ne jouent pas avec l'équipe 1 et que du coup descendent en réserve. T'as des mecs qui font des super matchs une semaine, la semaine d'après ils sont même pas dans le groupe en fait. J'imagine ça aussi, c'est un gros boulot pour l'entraîneur à chaque fois Lucas Pouliken, parce qu'il faut réussir à les garder motivés. Finalement la réserve du GF Saint-Cloud, il y a 3 points de sessionnés aujourd'hui, ils sont pas du tout décrochés.
Ah non non, pas du tout.
Ils sont qualifiés en Coupe Rhône-Alpes, etc. C'est compliqué aussi dans le message que t'envoies à tes joueurs. Tu fais un bon match une semaine, tu sais que la semaine d'après, si t'as des pros qui descendent, bah va gentiment te dire bah, on a pas besoin de toi cette semaine.
Et tu te retrouves
donc,
à
voilà, c'est. Tu vas jouer R3, effectivement, parce que Grenoble a une équipe 3 désormais en senior. Donc, c'est des messages et c'est un équilibre qui est difficile à trouver sur la durée, ça, je pense.
Qui est géré par Salim Benghriba, je crois. Hein.
Exactement. En fait, il y a un duo, concrètement, à la tête du groupe élite post-formation. Lucas Pouliken gère un peu plus des matchs de l'équipe 2. Salim Benghriba, un peu plus des matchs de l'équipe 3. Mais il y a un groupe, en fait, qui s'entraîne tous ensemble, un seul groupe d'entraînement.
Ouais, donc ça déjà c'est le point positif. J'ai envie de dire pour la réserve, ça permet d'avoir un bon nombre de joueurs dessus.
Exactement.
Toi qui suis un peu les mercatos, est-ce que tu trouves que c'est un mercato qui a bougé? Parce que moi je trouve que pour un mercato d'hiver, il a été plutôt quand même fourni.
Tu parles globalement là, pas que pour Grenoble.
Global.
C'est vrai que je me suis posé la question des beaucoup en Ligue 2 notamment et puis après sur les autres championnats aussi et j'ai l'impression que c'était assez calme. Après mon avis est un peu biaisé parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui cette journée était horrible en fait, mais c'est toujours ça en fait. Les derniers jours du mercato, t'as 50 informations. Là j'ai vu qu'il y a Valenciennes qui avait recruté, que le Paris FC avait recruté, que le Havre perdait son attaquant donc il va falloir qu'il recrute, mais c'est le cirque le dernier jour. Sur la globalité du mercato, j'ai trouvé les mouvements plutôt intelligents. Voilà, Valenciennes qui prend Hugo Bonnet ou qui a pris Florian Martin aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est des bons renforts. Nancy qui a pris Bobichon, je trouve que c'est plutôt
c'est
un bon renfort. Voilà, c'est moins de, un peu comme Grenoble finalement. On va moins n'importe où, on va pas prendre 17 joueurs. Par contre, on cherche le renfort, le mec qui peut être une plus-value et rapporter des points à l'équipe.
C'est très ciblé.
Et on se renforce comme ça, en fait. Alors après, on verra au niveau des résultats qui a eu raison ou qui a eu tort sur les mercato. Mais ouais, peut-être un peu plus calme et un peu plus intelligent quelque part. En tout cas, sur la Ligue 2, après, pour le reste, je suis un tout petit peu moins bien. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça a énormément bougé, à part Lyon, là, qui est en train d'animer un peu cette fin de mercato. J'ai pas l'impression que ça a beaucoup bougé.
Ouais, c'est vrai. Par contre, par rapport à ce qu'on vient de voir, je pense que tu restes quand même confiant pour le maintien du GF38 en Ligue 2.
Moi, j'attends de voir.
Je crois qu'on est. Papier, c'est une des premières fois où on est tous pareils.
On a cité un nom tout à l'heure, Raspantino. Moi, j'étais le premier à être très fan de son arrivée. J'ai été le premier à dire qu'est-ce que c'est ce Moussa Djité qu'on nous ramène. Et puis, à la fin du bal, on voit que Raspantino, c'est 0 but. Ouais. Et que Moussa Djité, c'est le plus gros transfert de l'histoire du GF. Donc, j'attends de voir. J'aime bien ce qu'il devine, ce que ça sous-entend ce recrutement-là. Je pense que ça a été intelligent. Je pense que c'est des vrais renforts. Enfin, non, c'est pas des renforts, en fait. On est juste revenu à l'équilibre. Les renforts, ça aurait été de renforcer l'équipe. Là, on a juste remplacé Benedict, finalement. Donc, on n'a rien renforcé. On est revenu à ce qu'on était l'été dernier.
Un peu tard.
Maintenant, on va voir sur le terrain si ça fonctionne bien ou pas. Mais le maintien, pas spécialement. Hein. Les mauvaises dynamiques, malheureusement, on peut avoir tous les meilleurs joueurs du monde. De temps en temps, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, il va juste falloir briser la chaîne. On a encore vu sur les sur le match d'Auxerre. Hein, je pense que Grenoble méritait un tout petit peu mieux que ce 1-0. Il y a un but qui est refusé. Voilà. Ouais. Donc,
le nul était
mérité. C'est difficile de sortir la tête de l'eau. Donc, mais ouais, sur le papier, j'aime bien cette expression, sur le papier, c'est plutôt séduisant dans le contexte grenoblois.
Oui, je pense que c'est séduisant et rassurant aussi par rapport
rassurant, au... Bien sûr.
Voilà, rassurant et qui donne un beau message de la direction, parce qu'on attendait un signe.
Oui, j'ai vu beaucoup moins d'insultes sur les réseaux sociaux.
Voilà.
Ça fonctionne bien pour l'instant.
On sait que Max Marty en prend pour son grade quand il faut, et faut le féliciter quand, en tout cas, sur le papier, déjà, ça semble être un job rempli.
J'attends quand même d'aller voir les commentaires sur le jeune défenseur là qui arrive d'Angleterre, mais ouais, sur au moins sur Jordan Tell, je pense que les gens sont rassurés et sont plutôt satisfaits de cette venue-là.
Bon, eh ben écoute, je crois que c'était assez exhaustif, ma Suède, cette intervention de Fred Céric Sougé. Hein.
Bah, l'avantage avec Fred, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on tourne pas 15 jours autour du pot et on dit les choses telles qu'elles sont, voilà. Et quand ça va, ben on dit que ça va. Quand on se pose des questions, et ben on dit qu'on se pose des questions. Et puis voilà, faut savoir dire les choses. Et sur le papier, effectivement, c'est intéressant, c'est rassurant cette arrivée de Jordan Tell. Maintenant, il n'y a plus qu'à le voir à l'œuvre, j'ai envie de dire. Ngando, moi, je pense qu'il va faire, il va pouvoir nous faire que du bien, parce que notre milieu de terrain, je fais que d'en parler, et il me sort par les yeux, donc ça pourrait être que du bon. Voilà. Et puis, on se donne rendez-vous à la fin de la saison, et puis on regardera où ça nous aura mené, vraisemblablement, et puis on va y croire dur comme fer, on devrait se maintenir, logiquement, si tous nos joueurs aussi, ils mettent du leurre et puis se sortent les doigts de derrière, on devrait y arriver sans problème.
Fred, avant de te quitter.
C'est que le niveau de la Ligue 2, du bas de classement de la Ligue 2, m'a l'air quand même très faible cette année. Vraiment très faible.
C'est très très faible.
Même si ça met pas un pied devant l'autre. Voilà, ça c'est le petit point rassurant. Grenoble c'est pas terrible, mais malgré tout il y a pire que Grenoble depuis le début de la saison.
C'est ce qu'on
se tue de répéter depuis quelques matchs quand on voit le niveau de Dunkerque, de Nancy. Au bout d'un moment tu te dis pas possible. C'est que des Pierre Richard quoi.
Non mais puis c'est pour ça qu'on peut pas être acquis de la défaite face à Bourg, parce que quand tu vois Avranches, Annecy, Bourg qui sont des sacrés cylindrés de national, je pense que ça a largement le niveau de bas de tableau Ligue 2. Je pense qu'il faut pas se formaliser là-dessus, et comme le dit Fred, je pense qu'on a 2-3 clubs qui sont vraiment vraiment très très faibles. On en fait peut-être partie, mais peut-être qu'on va réussir à sortir notre épingle du jeu en tout cas.
Mais oui, on va y arriver.
Fred, avant de te quitter, est-ce que tu peux nous rappeler ton actu, où c'est qu'on peut suivre? Il y a Gros Sport du côté de Facebook.
Ouais. La page Métro Sport sur Facebook, effectivement, le compte Métro Sport sur Twitter, le site dédié au GF38, c'est un site à part en fait, parce qu'on parle trop du GF38 sur Métro Sport.
C'est Gros Foot.
Directement, c'est Grenoble Foot Info. À Grenoble Foot, du coup, tout attaché .info. Et puis voilà, c'est déjà pas mal.
Eh ben écoute, en tout cas merci Fred pour ton intervention. Je pense que c'est clair, c'est concis et c'est apprécié en tout cas.
C'est très
cool.
Pour l'invitation.
Merci à toi. À bientôt.
Avec plaisir mon Fred.
À bientôt. Salut.
Salut.
Ben écoute ma Suède, je pense qu'on peut pas avoir meilleure intervention pour parler de cette dernière journée mercato du GF38. C'est un pur plaisir. En tout cas, c'est ce qu'on disait avant l'interview. Hein, les signaux sont au vert quand même.
Les signaux sont au vert effectivement. Maintenant. On est passé du statut, enfin moi je parlais en tant que supporter, de très inquiet à moins inquiet avec cette arrivée. Hein, comme quoi il suffit parfois de pas grand chose pour pouvoir se calmer un petit peu. Maintenant à voir, on attend de voir ce qui va vraiment se passer. Max Marty en l'occurrence a répondu présent sur ce recrutement, le fameux recrutement du buteur. À voir maintenant ce qui va se passer, en espérant que ça nous aide à nous redresser Et voilà, il faut surtout qu'on avance tout dans le même sens et qu'on y croit dur comme fer. Ça sert à rien de se bagarrer dans tous les sens. La fin de saison va être difficile, donc faut y croire et faut que tous les supporters grenoblois tirent dans le même sens.
Bien sûr.
Et puis voilà, dire qu'on va y arriver.
Écoute, Passuette, je te laisse joindre Julien Converso. On va parler avec lui.
Alors. J'espère qu'il va être dispo.
Voilà, s'il n'est pas dispo, tu reviens, Massuadi. On le sait, hein, Julien Converso, on le rappelle, c'est un ancien joueur grenoblois qui est aujourd'hui à la tête de la cellule recrutement d'Orléans. Vous le savez, Orléans qui joue en National 1, on est dans les dernières minutes du mercato. Certainement que son téléphone est en train de brûler, parce que départs, soit dans les arrivées. Donc écoute, t'essayes de te joindre, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, on l'aura la semaine prochaine où on verra en fonction.
On va voir ça, je te le dis tout de suite.
À tout de suite, Massuel. Allez, on va continuer à faire le tour de Mercato. Ça bouge énormément, hein, là, vous le savez. Très, très mauvaise pour moi, enfin, ce qui me concerne pour Lille, hein, puisque Reinaldo va rejoindre l'Atlético dès cet hiver. C'est quand même une mauvaise nouvelle. On a aussi l'épisode Lo Celso qui se finit, hein, vous le savez, Giovanni Lo Celso qui devait être un temps prêté du côté de Lyon, il va être finalement prêté à Villarreal. Giovanni Lo Celso, c'est plutôt une bonne affaire. On a également comment il s'appelle, Betancourt et Kulusevski qui signe à Tottenham. Donc c'est vrai que la Juve, on vous l'a dit en début d'émission, a énormément recruté, mais forcément à un moment donné ça part par quelques départs, hein. Donc Betancourt et Kulusevski compliqué à prononcer. On signe à Tottenham, hein, c'est officiel. On vous l'a dit en début d'émission, Zakaria qui vient de signer à la Juve, hein, Denis Zakaria qui vient du Borussia Mönchengladbach. C'est une très bonne recrue, ça aussi pour la Juve, hein, mon Kevin, hein, vous le savez, qui est avec sa femme Emma du côté de la République Dominicaine, qui frétille, hein, sur ce recrutement dernière minute de la Juve. Mais en tout cas, c'est bon de revoir la Juve qui se remet en avant. Vous l'avez dit, hein, la grosse info de la journée, c'est quand même l'Olympique Lyonnais avec les signatures officielles, ça y est, désormais de Romain Fèvre et de Tanguy Ndombele. Ça, c'est plutôt surprenant. On attend de savoir un petit peu les dessous, parce que normalement le salaire est assez astronomique. Massuède, es-tu là?
Ouais, je suis là et j'ai mon cher Julien avec nous. Donc ça y est,
quel plaisir.
Le téléphone. Ah ouais.
Quel plaisir. Bonsoir Julien.
Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe.
Julien, on le rappelle, hein, tu es ancien joueur grenoblois, tu es également aujourd'hui responsable de la cellule recrutement d'Orléans, hein, qui joue en National 1.
C'est ça, tout à fait.
Donc on présume qu'en cette dernière journée de Mercato, c'est compliqué, ta journée elle a dû être dense.
Ouais, compliqué, on essaie de gérer le dossier en amont, mais c'est vrai que là, ça s'accélère dans les dernières heures, il y a toujours un ou deux... Il y a toujours une ou deux péripéties, il faut régler quelques problèmes dans l'urgence, même si on n'aime pas faire ça.
Bah, je pense que c'est pas évident, parce que je pense que toi, dans la cellule recrutement, tu vas nous en parler. C'est des choses que vous aimez préparer, que vous aimez affiner. Et malheureusement, souvent, c'est dans les dernières minutes où il y a des, comme tu le dis, des conneries, des imprévus qui se passent et qu'il faut régler.
C'est ça, voilà, tout à fait. On est obligé de régler un ou deux problèmes. Puis autant le mercato d'été, on n'est pas lié à cette date, parce qu'on peut toujours avoir des prêts. Franco-français tout long, mais là c'est vraiment cette date du 31 janvier qui fait qu'après on peut plus rien faire du tout.
C'est un moment.
On te remercie, Julien. On te remercie de prendre du temps pour passer dans l'émission, parce que du coup, on sait que cette période elle est vachement délicate. Donc merci de ta présence en tout cas.
Ouais, c'est
vrai. C'est avec plaisir. On vient de pratiquement terminer un dossier là à l'instant, je trouve.
Ah bah tu vois.
Et après il y aura plus rien. Il y aura plus rien normalement.
Julien, une arrivée. Ah, une arrivée,
une
pas
arrivée,
un départ.
Arrivée, ouais.
Bon,
non, une arrivée.
C'est tout ce qu'on sait.
Deux arrivées. On a récupéré un Mohamed Cissé, un jeune attaquant de Lens, là, qui avait un contrat de 3 ans pro à Lens.
Très bien.
Qui a résilié, qui est venu chez nous pour les 5 derniers mois. Là.
Pour avoir du temps de jeu.
Voilà, c'est ça.
D'accord. C'est un jeune joueur U20.
Non, il était dans le groupe professionnel. Il avait un contrat de 3 ans.
D'accord.
Il jouait pas en pro, mais il jouait avec la réserve, avec la N2.
Ouais, donc c'est plutôt un bon profil, hein. On le rappelle, hein, vous êtes en milieu de tableau, dans la bonne partie du côté haut, à la 9e place, je crois. Et c'est surtout que vous restez sur une excellente dynamique, hein, avec 4 victoires, hein, du côté d'Orléans.
Ouais, c'est ça. On vient de basculer dans la bonne partie. Et on a galéré un peu ces 6 premiers mois. On a fait un mauvais départ.
Julien,
c'est difficile.
On va parler de ton parcours. T'as été joueur à Grenoble.
Il est grenoblois.
Oui, en plus.
Enfin, j'insiste là-dessus.
T'es né à la tronche.
Ouais, voilà, comme la plupart des Grenoblois, on se fait chambrer quand on part de la région, quand on voit qu'on est né à la tronche.
C'est vrai.
Je suis né à la tronche et mes parents sont à Vif et ma sœur est à un restaurant à Mélan, donc quand je reviens, je vais les voir.
Ah bah quel restaurant, tiens, qu'on lui fasse un coup de pub.
On a le droit de la faire de la pub.
Mais bien sûr.
Julien, on a tous les droits. C'est la famille, c'est pareil.
Tu peux y aller.
Ça marche. Elle tient la mandibule à Mélan.
La mandibule. Excellent restaurant, la mandibule, en face de la Banque Populaire, du côté de Mélan, que je connais bien. Ouais, je connais bien. C'est un super restaurant. On peut y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment top. Ben voilà. Le rendez-vous est pris.
C'est bien.
Julien, quel souvenir tu gardes de ton passage à Grenoble?
Ben forcément un très bon souvenir parce que comme tu l'as dit, je suis grenoblois, donc j'ai fait c'est un réel plaisir justement de à cet âge-là. Moi j'ai commencé en pupille parce qu'il n'y avait pas les U7, U9, U11, donc c'était pupille minime cadet junior.
Je me posais la question t'es pas de Nordcap, hein, t'es de l'OGI, hein?
Ouais, moi c'était pas de l'OGI, c'était le dernier. J'étais
Olympique Grenoble-Isère, hein. Ouais, t'es FCGD, voilà, carrément
à la fin. Moi, j'étais du FCGD, ouais, c'est ça.
Ouais, t'as connu FCGD.
J'ai commencé en pupille, c'était Marc Braillon, le premier président.
Oh là là.
Donc j'ai fait pupille, minime, cadet. Après, je suis rentré au centre de formation avec Bernard David, l'actuel directeur du centre d'Auxerre.
Bien sûr.
Et puis j'ai fait toutes les étapes. Et après, j'étais donc au centre de formation, jouer en équipe réserve, c'était la D4 à l'époque. Et puis j'ai commencé à faire quelques apparitions en pro avec Noël Tosi et Bernard Simondi. Et après, malheureusement, le club a déposé les gens et j'ai dû partir, quoi.
Ouais, t'as pas connu la fusion, hein. C'est justement là, je crois, où tu pars à Louhans-Cuiseaux.
Non, j'ai pas connu la fusion.
Je suis parti
à Louhans-Cuiseaux justement où après mon coach était le
Alain Michel.
Alain Michel, voilà, qui était à la base de la fusion entre les deux clubs.
Tout à fait.
Mais j'ai pas connu la fusion.
Et comment ça se fait que tu atterris à Louhans-Cuiseaux, du coup?
Parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas trop de responsables de recrutement, ouais, de recruteurs. Donc c'était, et je ne sais plus comment, mais je crois que c'était Bernard David, le directeur du centre, qui nous avait,
qui nous avait envoyé.
On est allé faire un essai là-bas, mm-hmm, avec je crois que c'était Samuel Alonso de tête et Falou Negro. On avait fait un essai là-bas et moi, il m'avait proposé un contrat de stagiaire.
D'accord.
Donc, j'ai signé stagiaire là-bas et après professionnel. Mais c'était un bon petit club, c'était un bon club familial, professionnel, mais c'était un bon club à l'époque.
Bah après, tu pars du côté de Reims, après, tu atterris à Gap, je crois, et Romorantin.
C'est ça, j'ai fait Grenoble, Louhans-Cuiseaux, Reims, Gap et Romorantin. J'ai arrêté assez jeune, j'ai eu un problème, j'avais une artérite du membre inférieur de la jambe droite, donc j'ai dû arrêter à 27 ans.
Ouais, parce que tu as 46 ans, tu es encore tout jeune. Donc t'es
donc... frais comme un gardon.
Non mais c'est vrai.
Merci de le préciser. Ouais, voilà.
Je me trompe pas, c'est ça.
C'est ça.
Ouais. Non. Et puis, du coup, tu t'es lancé dans une reconversion qui est plutôt risquée, qui est plutôt semée d'embûches, mais finalement, tu as réussi.
Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai réussi à rester dans le métier qu'on aime. Maintenant, ça n'a pas pris de faire sa passion, son métier. Donc après, c'est comme tout métier, on a des bons moments, des mauvais moments, mais c'est vrai que c'est un métier passionnant. Et j'ai la chance de rester là-dedans, j'ai su rebondir et lorsque j'ai arrêté, je suis resté un an et demi sans rien faire et je suis passé directement au directeur sportif à Romorantin.
D'accord.
En national, on a fait 6 ans en national et après je suis resté en N2. J'avais un rôle un peu plus élargi, hein, j'étais pas que directeur sportif.
Okay.
Je m'occupais aussi d'un peu des partenaires et puis j'avais d'autres rôles. On est obligé, comme c'est un petit club de national, on est obligé de regrouper un peu certaines fonctions. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a bien appris, justement.
Et aujourd'hui, du côté d'Arlan, t'as une équipe avec toi au niveau de la cellule de recrutement?
Ouais, moi je suis responsable du recrutement. Y a mon directeur général, hein, qui chapeaute, on va dire, tout ça. Et puis après, moi j'ai un recruteur avec moi, Mathieu Ligoul, qui est un ancien joueur du club, donc c'est
D'accord, donc il connaît.
Il connaît bien la maison, il a joué longtemps en National, en Ligue 2. Puis c'est une bonne personne, donc lui il s'occupe aussi, il est observateur un peu des équipes adverses. Et puis le samedi, il va voir des joueurs aussi. Parce et on a une personne qui s'occupe du Sénégal aussi. Là.
D'accord, qui source des joueurs au Sénégal.
Ouais, voilà, il part au Sénégal et puis il nous ramène, chaque année, il nous ramène 2-3 joueurs à l'essai. Puis après,
parce que, justement, c'est quoi
Julien,
la...
Vas-y, Julien, vas-y. Julien, il nous pique des joueurs. Vous êtes au courant, ça, ou pas, les gars?
Ah non, je suis pas au
courant. Il pique des joueurs. Bah, il pique le petit Gélal. Il a piqué le petit Gélal.
C'est vrai?
Ah oui, Kaïs Gélal. Non, c'est au centre de formation, donc c'était... c'est pas, entre guillemets, c'est pas le piqué, parce que, malheureusement, en plus, Grenoble n'a pas encore de centre de formation, je crois. Donc, mais c'est après c'est avec l'association, donc c'est le directeur du centre qui avait pris le petit Caïs, ouais, effectivement, il a signé stagiaire.
Mais autant qu'il soit entre de bonnes mains plutôt que voilà, qu'il n'arrive pas à aller au bout de ses rêves. Donc c'est bien parce que le club d'Orléans aujourd'hui, mine de rien, est une valeur sûre. Voilà. Donc moi j'espère, hein, parce que c'est un joueur que je trouve qui a énormément de potentiel. On parle de lui, c'est le fils de Jamel Gélal. Ouais. Un joueur qui a beaucoup de potentiel, mais qui est assez frêle encore physiquement. Donc voilà. Mais bon, c'est bien. J'espère que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. J'espère qu'il aura l'occasion de percer chez vous en tout cas. Mais non, c'était pour la petite touche.
Faut être patient. Ouais, voilà, faut être patient. Il va jouer, c'est un joueur de qualité. Faut pas brûler les étapes.
Justement,
c'était la petite touche humoristique hein, pour Chambon,
mon
ami Julien.
Et Julien, justement, aujourd'hui, c'est quoi la journée type de Julien Converso?
Ouais, mais c'est une journée type. On arrive au bureau, on échange un peu avec tout le monde, et puis après, c'est surtout le téléphone et puis les mails. Hein, c'est le téléphone qui chauffe.
Tu bouffes des matchs à la télé?
Ouais, on a un logiciel, donc on regarde des matchs, on appelle, mais j'aime surtout, après c'est les vidéos, mais nous surtout, bah c'est la journée, mais le week-end on aime surtout se déplacer pour aller sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a rien de tel que d'aller sur le terrain, les vidéos c'est bien, mais.
Ah, la vérité, elle est sur le terrain.
C'est ça, voilà.
Toujours sur le terrain.
Mais c'est surtout, voilà, des échanges, des relations avec les agents, avec des coachs, avec des directeurs sportifs, c'est que des échanges au quotidien, quoi.
C'est un réseau, en fait.
Voilà.
On va pas se mentir, c'est un réseau, ouais, c'est voilà, un réseau à créer.
Ouais. Voilà, c'est un réseau. Bah, tout le monde a son réseau. On se connaît tous après, entre guillemets, dans le milieu. Hein. On a plus d'affinités avec certains et que d'autres, comme tout le monde. Mais
il y a une particularité aussi que j'ai vue. Vous recrutez jeunes aussi, parce qu'au niveau des jeunes, ça se porte plutôt bien du côté d'Orléans.
Ouais, on a au niveau des jeunes, on a toute l'équipe de jeunes. Ça marche très bien.
Ouais, c'est ce que j'ai vu. J'étais assez surpris. Et je me suis dit que ça devait bosser aussi.
19 nationaux, la N3 qui marche très très bien. Ouais, on a des très bons profils.
Ouais, parce que vous avez un centre de formation qui est plutôt correct.
Ouais, on a. Après bon, si on a un centre de formation, on peut pas concurrencer non plus tous les grands clubs. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin d'Orléans, donc pas très loin de Paris, donc on a un gros vivier. La région centre aussi. À pas mal de jeunes talents, on a de quoi faire.
Ouais, donc c'est plutôt ça. Si t'as des idées, voilà, pour le GF38, tu nous dis, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas de centre, on n'a pas de recruteur. Max, il fait tout, Max Marty aujourd'hui au club. Donc c'est assez délicat.
Ouais, mais c'est très bien. Il connaît la maison, il fait très bon boulot, donc je pense que on n'a pas de leçons à lui donner. Au contraire, on apprend avec lui, parce que Max c'est quelqu'un je connais aussi également depuis très longtemps, parce que lorsque j'ai commencé à Louan-Cuiseau, il était un peu adjoint de d'Alain Michel, c'est déjà le binôme, donc je le connais depuis très longtemps, c'est quelqu'un avec qui on a de très bons rapports également.
Bah écoute, c'est une bonne chose, et puis au moins ça te permet de garder les liens. Un jour, on ne sait jamais ce qui se passe au GF38, hein, on sait qu'il y a normalement le centre de formation qui devrait démarrer dans pas longtemps. On espère que ça sera le cas. Une petite question aussi, est-ce que par rapport à ce que tu vis à Orléans avec ce centre de formation, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît indispensable aujourd'hui dans un club professionnel?
Au départ, sincèrement, non. Il faut prendre le temps, il faut vraiment structurer et pérenniser le club en Ligue 2. Et après, il faut que ça se fasse naturellement, il ne faut pas forcer les choses.
Ouais, tu le vois.
C'est sûr qu'un club comme Grenoble.
Tu le vois dans une question de timing. C'est une question de timing, en fait.
Ouais, voilà, il ne faut pas aller trop vite. Ben là, Grenoble est dans les coups, je trouve. Ça fait, ils sont remontés depuis, c'est la troisième année, si je dis pas de bêtises.
En Ligue 2, oui.
Oui, en Ligue 2, voilà, ils sont remontés en Ligue 2. De toute façon, en national, on peut pas avoir de centre, sauf si on est redescendu. Donc, non, il faut être patient, il faut prendre le temps. Ça sert à rien d'aller trop vite. Donc là, je pense qu'ils ont mis, les choses en route, et puis ça va arriver. Mais c'est sûr qu'un club comme Grenoble, va passer obligatoirement par un centre de formation, parce qu'il y a un gros vivier aussi là-bas dans la région Rhône-Alpes.
Non, mais je pense que c'est important ce que tu dis. On sent dans tes paroles la prudence tant envers les joueurs qu'envers les clubs pour leur structure. Et je pense que c'est ça aussi le recrutement. C'est savoir prendre le temps de jauger les choses, d'étudier et derrière de mettre en place. Et ça, c'est vraiment important ce que tu dis.
Quand on fait les choses dans l'urgence, on ne réussit jamais. Donc, c'est ça que je disais dans ce mercato hivernal, quand on fait les choses à la fin, souvent.
Non, mais c'est vrai, quand je vois les équipes de Ligue 1 ou d'Angleterre, j'ai l'impression qu'il y a des jets privés qui sont sur le tarmac et qui attendent juste que le joueur y signe. C'est incroyable, ce mercato d'hiver. Non, mais c'est vraiment particulier parce que t'as l'impression que tout le monde est à l'affût, en fait, comme tu dis, du travail dans l'urgence. On paye et puis on verra bien ce que ça donne. Mais malheureusement, je crois pas que ça fonctionne comme ça et c'est dommage. Enfin, il y en a qui font des bonnes affaires. Hein. On va pas se mentir.
Puis je comprends pas. Ils attendent sur les tarmacs, les joueurs là-bas. Nous, on les attend à l'île d'amour. On comprend pas. On n'arrive pas à les trouver, les joueurs.
Écoute, je sais pas si t'as vu.
On les cherche.
T'as vu Julien Jordan Tell qui a signé au GF38. Bonne pioche, hein.
J'ai vu ça rapidement. Et c'est très bien. Sincèrement, c'est une.
On est d'accord.
Une très belle affaire.
Ouais, ouais. Très très belle affaire. Je vois de Clermont
bon profil.
Mais, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est un excellent profil.
Ouais,
c'est un excellent profil, comme Axel Elgando aussi qui a signé il y a deux semaines. Je pense qu'on a réussi à faire venir des bons profils. Maintenant, faut que ça se confirme sur le terrain.
Voilà, tout à fait. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.
Et ben en tout cas, Julien, en tout cas, encore un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un réel plaisir.
Merci à vous les gars. Une bonne chose à l'émission, puis au GF38.
Et ben merci à toi, et puis on te souhaite une bien bonne chose du côté d'Orléans. Merci Julien.
Ça marche, merci beaucoup.
À bientôt.
Ciao, les gars, à bientôt.
Au revoir.
Très bientôt, Julien. Ciao, bon courage à toi. Merci.
Merci, au revoir.
Ciao. Au revoir.
Ciao, ciao.
Ma Suède, comment tu fais? Comment tu fais? Des agents, des recruteurs, la liste, elle est encore longue, ma Suède.
Julien l'a dit, c'est le réseau.
La Suède, parce que on peut pas encore tout dire, mais. Ça va changer la fin février pour l'émission du Foot Time Show. On vous l'avait promis, on travaillait dur pour. Il y a des choses qui vont changer fin février. Suivez l'actu. Voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, ta liste est longue et on a encore de belles choses à vous présenter et à faire évoluer.
Bah le truc c'est que effectivement, après je vais pas dire que c'est mon réseau, c'est un réseau aujourd'hui qui est en place depuis plus de 10 ans quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé à côtoyer, on va dire de plus près, de l'intérieur le GF, donc du coup, ben les anciens qui sont devenus des copains, et ben voilà, après on connaît un tel, on connaît un tel, on connaît un tel, et puis en fin de compte dans les discussions, et puis il y a cette forme de respect, voilà, qu'il y a entre eux et moi, et puis bah du coup ça s'installe comme ça, et puis effectivement on en profite pour les mettre sur le devant de la scène, parce qu'il y a des grenoblois comme Julien par exemple qui a été avec nous aujourd'hui, qui a joué à Grenoble et qui aujourd'hui a une expérience professionnelle qui est très bonne et puis qui est faite hors de Grenoble. Donc c'est des gens auxquels on ne pense pas forcément et on les oublie, donc c'est bien de les remettre sur le devant de la scène. Donc il y a encore beaucoup de noms comme ça qui devraient arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement l'émission est en train de grandir et que du coup, de noms encore plus sympathiques et des noms grenoblois ou des noms de personnes qui ont évolué à Grenoble, et qui sont venus à Grenoble et qui ont gravité autour de Grenoble vont participer à l'émission. Des noms parfois assez ronflants, je pense qu'on peut le dire comme ça.
Ouais, donc on est en train de travailler sur Lionel Messi, hein. On devrait avoir Lionel Messi.
Lionel Messi, on en a rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est du grenoblois ou du joueur qui est venu à Grenoble.
Exactement. Exactement, ma Suède. En tout cas, encore merci pour ta présence avec moi en ce lundi comme d'habitude, malgré ton rétablissement difficile du Covid.
Ouais, ça va se faire. Je suis pas à l'article de la mort, donc ça va se faire. Impeccable.
Bon, et ben en tout cas, merci ma Suède, et puis on se retrouve lundi prochain en ta compagnie.
À très bientôt.
Allez, salut Massuet.
À plus. Bonne émission. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Et voilà, c'était encore un plaisir, cette partie du GF38 hein, qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'émission. On le rappelle, je l'ai dit en début de l'émission, c'est une émission qu'on consacre et qu'on dédie surtout à la maman de Malek Sherrad hein, qui nous a quitté la semaine dernière. Hein, donc voilà, on fait un gros coucou, on envoie toutes nos condoléances à la famille de Malek, à la famille de Samir, hein, qui était également bien sûr sa tante. Donc voilà, et plein de courage en tout cas pour ça. Allez, on va continuer du côté du mercato, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui aurait dû être prêté du côté du Barça, un prêt assez surprenant, mais en tout cas ça semble capoter du côté de ce prêt. Donc on va suivre les dernières heures, mais apparemment je pense qu'on y reviendra dans l'émission de lundi prochain, parce que ça semble être un rebondissement assez rocambolesque du côté de ce transfert. On a aussi recruté hein, du côté de Lorient hein, c'est Burki Elton à Lorient, ça semble fait également. Il y a aussi du côté de Bordeaux, vous l'avez entendu, Laurent Koscielny qui était aussi annoncé du côté de Lorient, parce qu'il a résilié du côté des Girondins de Bordeaux. Mais apparemment, c'est ce qu'on est en train de voir, il aurait disposé d'une clause de reconversion. Donc il conservera malgré tout un titre symbolique en fait de représentant à l'international des Girondins de Bordeaux. Autant dire que c'est une planque toute trouvée pour Laurent Koscielny, pour sa reconversion qui est assez proche. On en parlait également, hein, c'est Van den Beek, hein, Van den Beek, Manchester United, qui vient de signer là à l'instant du côté de Everton. Écoutez, on aura dans un instant, un invité, il fait partie de la team, bien sûr, c'est mon Pierrot. À tout de suite dans le RKS Foot Time Show.
Le RKS Foot Time Show.
Foot Time Show.
Et oui, le RKS Foot Time Show, tous les lundis entre 19h et 20h30. Je vous l'ai dit, il y a des choses hein, qui vont changer du côté du RKS Foot Time Show dans pas longtemps. Je peux pas en dire plus. Mais en tout cas, on va vivre de belles choses. On met un petit bout musical avec Charlie Hamson et on revient tout de suite dans le RKS Foot Time Show avec mon Pierrot qui sera avec nous.
RKS, le meilleur des tubes à Grenoble et l'info de proximité.
Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't.
Dans un instant, le RKS Foot Time Show est de retour.
So good. So good. I got to hear. Wow! I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. I got you. When I hold you,
je crois qu'on a mon Pierrot en direct dans le RKS Foot Time Show.
Salut.
Comment, salut Melvin, salut comment ça, mon Pierrot, ça fait deux semaines qu'on t'a, ça me fait plaisir de t'entendre. Comment tu vas?
Bah écoute, je pense qu'il va neiger là sur Grenoble, non?
Écoute, on va pas se mentir, mon Pierrot, la neige est très proche en plus. Je viens d'avoir des photos, notamment du côté de la mur, il y a déjà 20 cm. Je crois qu'avec ton interview, on est sur une bombe nucléaire.
Bon, comment vas-tu, Melvin?
Écoute, ça va bien, mon Pierrot. On vient de parler du GF38, hein, je sais pas si tu as suivi, hein, une belle recrue du côté du GF38, puisque c'est Jordan Tell, l'attaquant clermontois, qui rejoint le GF38 pour 18 mois. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais, c'est clair, c'est une bonne chose. C'est une bonne recrue.
C'est une bonne recrue.
Félicitations au GF38. Je pense que ça leur fera du bien, surtout sur cette deuxième partie de saison où il y a un objectif qui est quand même pas simple. Hein. On avait parlé.
Bien sûr.
Maintenant, c'est clairement l'objectif maintien et je pense qu'il va apporter, beaucoup de choses. Et son expérience aussi là pour atteindre cet objectif.
Je crois aussi. Mon Pierrot, t'as vu, c'est une fin de mercato là qui bouge. Hein. Est-ce que t'as suivi un petit peu ce qui s'est passé?
Ouais, je regarde là. Je suis un peu comme tous les fans de football. Hein. On est branché sur l'Eurosport direct, sur le RMC direct. On essaie de regarder, de suivre. C'est la folie, ça s'emballe. Et puis, ce qui est assez incroyable, je pense pas avoir vécu un mercato d'hiver où on parlait autant du mercato d'été. Il y a tellement de fins de contrat en plus,
c'est incroyable.
6 mois.
T'as raison.
Que c'est juste la folie, quoi. Je vois même au niveau du FC Nantes, je vous parlais là notamment de Colomouani qui devait partir pour la Bundesliga.
Tout à fait.
Ça y est, c'est signé.
Il ira où du coup, Colomouani?
Alors Colomouani, attends, je vais pas faire d'impair. Il rejoint Francfort.
D'accord. Donc dès l'été prochain.
Dès l'été prochain, ça y est, c'est signé. Donc là, il va rester encore 6 mois au FC Nantes. Et il vient de signer un contrat de 6 mois. Il avait pour objectif de ne pas rejoindre ni la première ligne ni la Liga. Il avait un parcours en tête qui était très clair, qui était celui de passer par la Bundesliga, comme beaucoup d'autres joueurs avant lui.
Hein, c'est un choix intelligent. Hein.
Aubameyang, Dembélé, entre autres, et d'autres encore. Donc non, c'est une bonne chose.
Ah, Dembélé, ça l'a pas rendu intelligent apparemment. Mais après, ça c'est autre chose.
Exactement.
Quelles sont pour toi les meilleures affaires là de ce mercato d'hiver? On a vu notamment Romain Fèvre et Tanguy Dembélé à Lyon.
Sincèrement, ouais, je trouve que le mercato de Lyon est extrêmement intelligent, avec une balance pour le coup qui va être plus que positive, avec la vente de Guimarães. Donc ouais, c'est un très très joli mercato. Et je suis assez excité par le retour de
Tanguy Ndombele.
De Ndombele.
Moi aussi.
De Ndombele.
c'est parce que on va pas se mentir, beaucoup ont craché. Bon, on sait que notre Jean Mimi, ces dernières années, il est un peu dans le vague. Alors, beaucoup ont craché sur lui par rapport à la vente de Guimarães parce que ça allait tout faire tomber à l'eau. C'était l'homme de base. Ouais, enfin 50 millions les copains dans un mercato d'hiver, dans un moment de crise, ça se refuse pas vraiment, mon Pierrot.
Que t'as acheté il y a moins de 2 ans 20 patates.
C'est exactement ça.
Moi, j'aimerais bien pouvoir mettre 20 millions sur quelque chose et pouvoir en récupérer 30 2 ans après. Hein,
bah, surtout que mon Jean-Mimi, je pense qu'il devait savoir qu'il y avait Tanguy Ndombele et Romain Fèvre dans le tiroir, que ça allait rentrer et qu'il allait faire, comme tu l'as dit, une balance positive.
Bah, franchement, quand on m'annonce Guimarães sur le départ, je me suis vraiment interrogé. Mais avec le retour de Ndombele, quand on voit ce qu'il a pu faire et sa polyvalence au milieu de terrain, avec l'expérience qu'il a en plus emmagasinée en première ligue, je pense que Jean-Michel Aulas nous a gratifié d'un joli transfert, d'un joli coup.
Ouais, je pense aussi. Bon, Pierrot, ça n'a pas bougé beaucoup du côté de Paris. Il n'y en avait peut-être pas besoin. Mais on a entendu des Pogba, on a entendu des Tanguy Ndombele. Pour l'instant, rien ne s'est fait.
Ben, le gros problème qu'on a aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est qu'on a un objectif de dégraisser maintenant depuis plusieurs années. Notamment avec des joueurs comme Kurzawa et comme Draxler qu'on a fini par prolonger. Donc c'est le côté un peu bipolaire du Paris Saint-Germain.
Mais mon Pierrot, avec les salaires que donne le Paris Saint-Germain, comment veux-tu que ces joueurs-là se replacent? C'est ça, moi,
ouais,
qui c'est difficile.
C'est extrêmement difficile. Les joueurs qui sont convoités sont pas forcément ceux qu'on aimerait qu'ils partent. Je pense notamment à Danilo qui avait été un temps demandé par Mourinho pour rejoindre l'AS Rome. Il y a eu d'autres joueurs comme Joan Bernat aussi sur lequel son profil plaisait beaucoup en Italie et en Espagne. Mais c'est pas des joueurs qu'on a envie de laisser partir en fait. C'est des joueurs sur lesquels on compte. Et voilà, il y a eu aussi des propositions qui ont été faites à Kerrer, notamment en Bundesliga, de deux clubs, mais pas satisfaisantes ni pour le joueur ni pour le club. Donc voilà, c'est un peu le problème, c'est que on a une masse salariale qui est colossale, qui doit être une des plus grosses d'Europe, de très très loin. Et en l'état actuel des choses, qui plus est avec le contexte sanitaire, tu peux pas te permettre d'aller plus loin. Donc c'est ce qui fait tomber à l'eau Ndombele, et c'est ce qui fait aussi tomber à l'eau les 20, 25, 30 millions qu'il aurait fallu mettre sur Dembélé à court terme.
Alors, je te pose la question. On a vu avec insistance Dembélé du côté de Paris. Quand je vois l'effectif de Paris, comment c'est possible de faire venir un joueur comme Dembélé et comment le faire jouer surtout?
La grande question, ça va être la gestion de toute façon de cette ligne d'attaque. À court terme, de toute façon, il y a l'interrogation et tout va tourner autour de Mbappé.
Après, t'as toujours un blessé pendant 6 mois. Alors, on va pas se mentir.
Ouais, exactement. 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 Non, mais après, ce qui est certain, et on le sait tous, l'Europe a les yeux rivés sur la situation de Mbappé. Ce qui est sûr, c'est que Leonardo veut impérativement prolonger de 2 ans Mbappé, ce qui était dans les tuyaux ces dernières semaines. Mais là, apparemment, de ce qui sort là récemment sur Mbappé, notamment le quotidien Bild en Allemagne, qui est plutôt un quotidien sérieux, qui parle d'un accord total entre Mbappé déjà et le Real de Madrid pour un salaire de 50 millions d'euros
par
an, qui en ferait le joueur le mieux payé au monde. Donc, enfin, le joueur de football, je m'entends. Hein. Et donc, apparemment, ce serait déjà fait. Alors, on va voir si c'est repris par d'autres quotidiens de d'autres continents, mais je pense que malheureusement, ça sent le sapin pour Mbappé.
Bah, ça sent le sapin pour Paris. Après, on va pas se mentir, Mbappé, c'est un joueur, on a beaucoup dit, au niveau de son caractère, de sa prise de boulard et tout ça. Maintenant, c'est le seul joueur aujourd'hui qui est sur les papages de tout le monde, mais qui répond présent aussi dans ses prestations sportives. Il est monstrueux. Il est monstrueux.
C'est la grande inconnue. Et le problème, c'est comment on va le remplacer, par quel profil. Moi, ce que je trouve très dangereux aujourd'hui, c'est le timing dans lequel manœuvre Leonardo.
Qui est très court.
Il aurait fallu couper court dès l'année dernière, dire tu restes pas, si tu restes pas, soit le laisser partir et le vendre, parce qu'on récupérait quand même 150 millions, avec ça tu fais de jolies choses. Mais je trouve que ce qui est en train d'être fait, d'espérer jusqu'à la dernière minute et de regarder Mbappé s'éloigner du Paris Saint-Germain chaque jour, tout en laissant partir d'autres gros dossiers comme Haaland notamment, on parle de aujourd'hui, toi, moi, tous les supporters, les gens qui nous écoutent, tout le monde sait à peu près qui seront les 3-4 meilleurs joueurs du monde sur les 10 prochaines années. Aujourd'hui, il y en a deux qui sont dans une situation contractuelle qui est juste idyllique pour les recruter. Mbappé, aujourd'hui, il a fait son temps au Paris Saint-Germain et c'est un joueur qui est sur le départ. Je ne comprends pas comment l'état-major parisien ne se penche pas davantage sur Haaland.
Je suis comme toi.
En sachant que Vinicius, lui, ne partira pas du Real de Madrid. En tout cas, sa situation contractuelle, de toute façon, ne l'amène pas à réfléchir là-dessus. Donc, c'est la grande question que je me pose. Voilà. Aujourd'hui, les grands joueurs de demain, si le Paris Saint-Germain veut vraiment pas figurer sur les prochaines Ligues des Champions, il faut qu'il s'arme et qu'il trouve sa figure de proue. Tu vois bien qu'aujourd'hui, Lionel Messi, Sergio Ramos, voilà, c'est pas l'avenir. Donc, je suis un peu, je m'interroge, je me dis que Leonardo, il nous a déjà sorti plusieurs surprises du chapeau, mais ce qui est sûr, c'est que si la saison prochaine, on commence sans Mbappé, mais avec Dembélé, je vais être très très inquiet.
Ouais, je suis comme toi, parce que je pense que justement, Dembélé aurait pu être le remplaçant d'Mbappé.
Ouais, mais le problème, c'est sa fragilité, il n'a pas les mêmes hygiène de vie, il n'a pas la même constance. Ouais,
c'est sûr qu'il est fragile mentalement, il est fragile, physiquement, mais forcément. Forcément, mais
sincèrement, Dembélé est capable de faire du Mbappé sur un ou deux matchs. Son problème, on l'a déjà vu sur certains chocs, sortir d'un pressing, même avec le Barça, et arriver à fustiger toute une défense et à traverser le terrain et aller marquer, je crois que c'était contre Liverpool. Dembélé est capable de faire du Mbappé. Mais le problème, c'est que tu vas, en laissant partir Mbappé, t'achètes un tiers de Mbappé, en fait. Ouais. T'achètes un Mbappé un match sur 3 et dans le meilleur des cas, s'il n'est pas blessé. Donc tu peux pas. Aujourd'hui, t'as besoin d'un leader. Toutes les grandes équipes, toutes celles qui ont gagné des grands championnats, des grands titres, elles avaient une figure de proue. Le PSG, il y a quelques années, avait Zlatan Ibrahimovic. Aujourd'hui, on a Mbappé. mais Messi ne sera pas demain le grand bonhomme et Neymar ne peut pas non plus être le grand bonhomme de ce Paris Saint-Germain. Il faut quelqu'un qui ait le charisme, qui ait la constance, qui ait l'état d'esprit. Un mec comme Ronaldo l'a été en son temps. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, si Mbappé part, demain, on sera forcément et orphelin de son profil, mais aussi de son charisme et de ce qu'il représenterait éventuellement pour le club.
Oui, oui, c'est certainement un des top joueurs futurs. Hein, on va pas se mentir. Je suis assez d'accord avec toi.
Et toi, mon loulou, qui est fan de l'Olympique Lyonnais, parce que j'ai parlé aussi pas mal un peu de l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça, elle t'excite, cette équipe? Parce que franchement, elle a de la gueule, mine de rien.
Bah, écoute,
parlait aussi de... J'aimerais avoir ton avis sur ça et puis sur la gestion aussi de Cherki, qui est aussi une pépite de cet effectif, qui joue extrêmement peu pour moi, parce qu'il a un vrai niveau. C'est un joueur qui, à chaque fois qu'il rentre, il éclabousse la rencontre de son talent et il survole. J'ai du mal à comprendre la gestion du cas Cherki aussi au sein de cet effectif.
Écoute, je suis très satisfait hein, de ce mercato d'hiver, parce que je pense que d'un côté financier, cette vente de Guimarães est de bon augure, et puis de faire revenir Tanguy Ndombele, et aussi Romain Feff, faut pas oublier Romain Feff, qui est un excellent joueur pour l'avenir, je pense que il a signé jusqu'en 2024, c'est plutôt...
Et les deux sont effectifs tout de suite en plus.
Et c'est ce que j'allais dire, et les deux sont prêts tout de suite. Donc c'est assez intéressant, Boateng qui est une très bonne recrue, qui fait une très belle saison, et pour parler du cas Cherki, je vais t'avouer, j'ai quand même quelques personnes que je connais à Lyon, ça fait plusieurs mois qu'on me répète qu'en fait... L'Olympique Lyonnais est en train de le préparer, de le préparer, de le préparer. À un moment donné, t'arrêtes de préparer, tu le fais jouer.
Dingue, parce que moi, maintenant, j'entends même qu'apparemment, il préparerait la vente de Cherki.
Mais oui.
C'est ce que j'ai entendu sur les derniers échos.
Tu peux pas vendre un joueur comme ça, une pépite brute, sans l'avoir monté comme à Lacazette, comme un Nabil Fekir. C'est justement le point fort de l'Olympique Lyonnais, de former, de faire jouer et de faire des plus-values de fou. Pour moi, c'est un mystère, d'autant plus que tu suis la Ligue 1, mon Pierrot. Offensivement, l'Olympique Lyonnais est loin d'être fourni. Timo Kadewere, ouais. Ça met pas un pied devant. T'as Moussa Dembélé, t'as Toko Ekambi qui est en train de flamber du côté de la CAN, mais c'est tout. Donc c'est un joueur. Dis-moi.
Non, mais c'est moi, ça me choque quand
c'est
tu vois
frustrant.
Il y a 5 jours, Boz a quand même envoyé Cherki jouer avec la réserve en National 2.
Oui, j'ai vu.
Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas la gestion de ce joueur, de ce talent, de ce diamant. Que tu le laisses un peu dans l'ombre et que tu le fasses jouer de temps en temps. Mais là, la manière dont c'est géré, ne serait-ce que le fait de l'envoyer en National 2, comme disait Bengus avec Ben Arfa au moment de la non-sélection quand il jouait à Nice, le petit, tu l'as fusillé, quoi. Tu l'as envoyé à la tasse, le gars, quoi. Mais c'est exactement ça, ce qu'ils sont en train de faire avec Cherki, c'est n'importe quoi.
Mais surtout que tu vois Kevin, qui est du côté quand même de la République Dominicaine, il dit quelque chose de très juste. À Lyon, il n'y a pas d'ailier, et Ryan Cherki a ce profil d'ailier. Il parlait de Thomasson, hein, on aurait bien aimé qu'il vienne à Lyon, mais c'est vrai qu'en plus, on n'a pas ce profil d'ailier. Tu as des joueurs axiaux comme Aouar, qui est plus un profil axial, mais t'as personne en percussion, hormis Toko Ekambi sur un couloir. Je suis un peu comme toi, je suis assez dubitatif et je comprends pas bien ce choix de Peter Bosz et ce choix aussi de l'institution lyonnaise qui est en train de fonctionner complètement à l'envers de ce qu'ils ont fait avant avec leurs jeunes joueurs qui faisaient jouer. Un Malo Gusto aujourd'hui est beaucoup plus utilisé qu'un Ryan Cherki. Un Maxence Cacré est utilisé constamment, contrairement à Ryan Cherki. Et j'ai du mal à comprendre.
Ouais, c'est étonnant. C'est très très étonnant. Et sur la question de Lyon, il y a aussi quelque chose qui était ressorti là il y a quelques jours sur un éventuel retour de Lacazette. Ce serait génial. Ce serait vraiment là.
Lacazette, il est pas vieux, hein. Il a encore 2-3 saisons bien comme il faut à faire.
1991, ouais.
Ouais. Donc ça serait une très très bonne recrue. Maintenant, à un moment donné, est-ce qu'on est capable de payer ces salaires là? C'est pas évident.
Il y a eu quand même de belles ventes à Lyon hein, ces dernières années, donc on ne fera pas pleurer. Je me rappelle de Jean-Michel Aulas au moment où il a fait son stade. Il a dit que juste sur les recettes, alors je sais que les personnes qui nous écoutent vont peut-être se dire « Oui, mais il y a eu le Covid. » Oui, tout à fait. Mais quand Jean-Michel Aulas a créé son stade, il a dit que dans les prochaines années, juste sur la billetterie, ils auraient plus de 60 millions pour le marché des transferts, que ce soit en termes de salaire ou en termes de recrutement. Il y a quand même eu entre-temps une belle épopée en Ligue des Champions, quelques très grosses ventes. Je pense que l'Olympique Lyonnais, si réellement il a envie de figurer dans cette Ligue 1, il faudra un moment qu'il mette la main à la poche et ça passera, à mon avis, de toute façon, par le retour de joueurs cadres comme celui-là.
Je pense que ça fait partie des pistes qui peuvent être vraiment intéressantes. Après, est-ce que ça se fera? Écoute, je sais pas.
On parle de Benzema aussi, un horizon 2 ans.
Ouais, mais Benzema, je sais même pas si ça serait lui rendre service de revenir à Lyon.
Ouais, je pense pas.
Il est tellement en train de flamber. Moi, je reste à Madrid, je finis ma carrière à Madrid, et s'il veut revenir à Lyon, il revient à Lyon pour faire, je sais pas, mais pas joueur en tout cas. Je suis pas sûr que ça serait lui rendre service.
Ça serait peut-être un Buffon au Paris Saint-Germain, quoi.
Exactement. Mon Pierrot, on va parler Coupe de France. Nantes qui s'est imposé, qui se qualifie pour les quarts, mon Pierrot, les Canaries.
Avec un Ludovic Blas,
il a mis un doublé exceptionnel.
Ceux qui aiment le football, aller voir ces deux buts, ça vaut le détour.
C'est monstrueux. Surtout, le premier but, la frappe qu'il met. Oh là là là.
Ouais, c'est magnifique.
Il est extraordinaire, ce joueur.
Et quelle passe de Nicolas Palois qui traverse tout le terrain.
Une touche. c'est vrai en plus.
Contrôle derrière. Incroyable. Incroyable. Un très très joli match. Voilà, un Nantes convaincant qui a l'image de ce qu'il est en train de réaliser en championnat.
C'est solide. C'est solide.
Très très bien actuellement.
C'est solide et efficace.
Ouais, quand tu regardes sur les derniers matchs, le Paris Saint-Germain a perdu contre Nice, qui est quand même dauphin du Paris Saint-Germain, fait match nul contre Monaco, et tous les autres matchs, c'est que des victoires. Donc, grosse, grosse dynamique du Football Club de Nantes, qui fonctionne très, très bien, et qui a vraiment retrouvé des couleurs cette saison sous les ordres de Kombouaré.
Ouais, et d'ailleurs, c'est Ludovic Blas, c'est marrant, c'est pas encore un joueur qu'on entend sur les tablettes de grands clubs. Hein.
Non, il est arrivé quand même en grande pompe, du voisin breton, il arrive de Guingamp, si je ne m'abuse.
Oui.
Contre un joli chèque, hein, parce que je crois qu'à l'époque, on met 7 millions. Alors, ce qui n'est pas grand-chose quand tu vois sa polyvalence et le niveau qu'il a aujourd'hui. Pour le Football Club de Nantes, sortir 7 millions, on n'est pas encore l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais ou autre. Donc, quand on approche les 10, ça commence à ronfler. Et mine de rien, il démontre tout son talent. Et c'est un vrai maître à jouer et un élément clé pour le Paris Saint-Germain. Et je pense
pour Nantes,
que...
Pour Nantes, il n'est pas encore au Paris Saint-Germain.
Partir.
Ah, mon pire, il n'est pas encore au Paris Saint-Germain. Donc, c'est pas un élément clé du Paris Saint-Germain. C'est ce que t'as.
Pardon, un de du Football Club de Nantes.
Exactement.
On approche de 21h.
C'est ça. Versailles, la surprise, Versailles, club de N2 qui élimine Toulouse. C'est...
Ouais, on a presque envie de dire que c'est plus une surprise que Versailles sorte Toulouse, que Bergerac sorte Saint-Etienne. C'est ça qui est dramatique, mais t'as tout résumé en parlant de la surprise. Je me suis dit, il va me parler de quelle surprise.
Mais tu sais ce que je me disais, Toulouse, bon, qui survole pour l'instant la Ligue 2. Versailles qui est ultra leader en N2, donc qui va certainement monter en National 1. Il y a pas peut-être tant d'écart que ça. Hein. C'est sur un match, ça peut être joué. Hein. Versailles produit un jeu, n'a pas volé sa victoire. Tout comme Amiens qui a éliminé 2-0 à Nancy. Bon là, on est sur les très faibles de Ligue 2. On va pas se mentir. La bonne opération aussi, Régis Brouard, qui, je sais pas si c'est pas l'homme de la Coupe de France, lui, qui tu as vu avec le Bastia, qui a éliminé Reims au pénalty.
Hein. Oui.
Lui, il va toutes nous les faire. Hein. Il a quand même fait la finale de France avec Quevilly. Hein. Faut pas oublier, hein. Au Stade de France, hein, Régis Brouard. Non, mais c'est incroyable, mais c'est vrai.
Ce sera la mascotte de la compétition.
Exactement. L'Olympique de Marseille qui élimine Montpellier au tir au but. Hein. C'était le match de hier soir. L'Olympique du Marseille, mon Pierrot, qui est surprenant cette année.
Aussi. Ouais. C'est grosse dynamique de Marseille qui fonctionne bien, avec un bel effectif.
Il n'est pas forcément très large, hein, l'effectif. Hein. Il est bon.
Il est pas très large, mais il est performant. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, parce que ça se finit au tir au pénalty, sur le contenu du match, il ne faut pas oublier que l'Olympique de Marseille a 70% de possession de balle, 28 frappes contre 3 seulement pour Montpellier. Donc le score est loin de refléter la physionomie du match et Marseille qui continue sur une très bonne dynamique.
Bergerac, comme tu l'as dit, hein, qui élimine Saint-Etienne, c'est pas une surprise. Saint-Etienne, je pense que si tu nous dis que cette année ils sont N2, ça nous surprend pas.
Exactement.
Match extraordinaire hein, hier soir entre Lens et Monaco.
Magnifique.
Oh là là là. Dès qu'à Lens qui joue, j'ai l'impression que ça sublime le football. Bon, Monaco était très fort.
Magnifique. Tout était beau sur ce match. Les trois premiers buts de Monaco, merveilles à montrer
Le centre de Caio Henrique, cette tête de Ben Yedder. Et puis cette réaction lensoise, parce qu'ils reviennent à 3-2. C'est une équipe qui a du cœur, qui est poussée. Et puis Monaco qui taille patron, j'ai trouvé Monaco hier.
Ouais, vraiment, vraiment. Même si Lens peut avoir quelques regrets. Il loupe, notamment par l'intermédiaire de Kalimuendo, il loupe la balle du 3-3. Mm. S'il avait fait preuve d'un peu plus d'altruisme...
Il aurait dû centrer.
C'était but à 100% parce que tout le monde était battu. Mm. Et il était tout seul face au cage. Mais bon, après, je pense que sur le contenu du match, Monaco a pas volé sa qualif. Même si Lens, à part rougir de ses statistiques, hein, parce qu'ils ont quasiment eu 66% de possession avec deux fois plus de tirs et cadrés, 12 tirs cadrés pour Lens. Donc, mais Monaco a fait ce qu'il fallait. Monaco a tué le match en première mi-temps. Mais Lens n'a pas démérité. Mais quel match. Et on arrive donc à notre dernier match de cette Coupe de France.
Ce soir, le premier contre le deuxième de Ligue 1. La compo du Paris Saint-Germain vient de tomber. Hein, il sera remplaçant, hein, notre ami Kylian Mbappé. On aura une attaque avec Icardi, Lionel Messi et Di Maria, mon Pierrot.
Et Di Maria, moi j'avais Draxler dans la compo.
Ah non, Draxler, pardon, excuse-moi. C'est moi qui me trompe. Avec Draxler, il faut le faire jouer à un moment donné, Julien Draxler. Hein. C'est ces matchs-là.
Tu le prolonges. Tu sais quoi, c'est incroyable parce qu'il était annoncé sur le départ. En début d'année, il est là. Il n'y a quasiment aucune com sur son transfert. Je suis incapable de dire quel est le montant, quelle est la durée. Je suis incapable.
Non, parce que c'est un joueur.
Il est assez étonnant.
C'est presque un joueur qu'on s'en fout. C'est fou à dire.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, trois quarts des clubs européens aimeraient l'avoir. Hein. Mais c'est un joueur qui est un peu aux oubliettes, Julien Draxler.
Pour nos auditeurs, là, tu peux nous dire sur quelle chaîne il est diffusé ce match, parce que
alors tous les matchs.
Bien qu'il soit diffusé.
Tous les matchs de Coupe de France sont diffusés. Et c'est eux qui ont les droits sur Eurosport. Voilà. Donc généralement, les matchs de Coupe de France sont sur Eurosport 2.
Et je crois que par contre, il y a une com comme quoi à partir des quarts, je crois que ça va être diffusé en
France
clair,
3. Non oui, parce qu'en France, tu es obligé sur une compétition, alors ça faut le savoir, sur une compétition nationale, d'accord, de diffuser à partir des quarts de finale, demi-finale et finale en clair, et tout comme les équipes nationales de n'importe quel sport, à partir des demi-finales, tu es obligé de diffuser en clair. C'est pour ça que souvent vous voyez des matchs de handball sur W9 ou quoi, parce que justement, c'est obligatoire dans la législation française.
Et par contre, la petite finale de l'équipe de France, elle était sur beIN Sport.
Et elle était sur beIN Sport. Effectivement, la finale des handballeurs, malheureusement, qui sont éclatés. Vincent Girard, à qui on parle un peu handball parce qu'on a craché sur Vincent Girard. Il a tellement fait des belles choses pour l'équipe de France. C'est vrai qu'il n'a pas été bon, il n'a pas été au rendez-vous. Mais c'est dur pour l'équipe de France.
Il y a un chiffre qui parle, hein, sur la demi-finale, 9% d'arrêt pour l'équipe de France.
Ah non, mais c'est
30 et 40% sur les deux autres gardiens des deux autres équipes. C'est pas possible. Tu peux pas gagner.
C'est affligeant, mais bon, c'est dommage. On va parler, pour finir l'émission, mon Pierrot, de la CAN, cette Coupe du Rire. Hein. C'est un peu le cirque, cette CAN.
Hein. Je pense que vous êtes sûr que Bernard Tapie est mort, parce que j'ai l'impression qu'il a racheté le Cameroun.
Tu sais qui c'est qui a racheté ? C'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, si Samuel Eto'o il a pas fait un chèque pour que le Cameroun y gagne, je sais pas ce qui se passe.
C'est incroyable. Ce
match contre les Comores qui se changent dans le bus, ils doivent avoir un pénalty 100 fois qui n'est pas sifflé. C'est n'importe quoi. Je comprends pas. C'est une CAN qui est.
Toi qui es souvent à Lyon, il faudra poser la question à Toko quand il va revenir en bus avec la coupe.
On va le dire. Hein, le Burkina Faso qui s'est imposé face à la Tunisie 1-0, le Sénégal qui s'est donc imposé 3-1 face à Guinée équatoriale, le Cameroun qui s'est imposé face à la Gambie, et hier dans le choc entre l'Égypte et le Maroc, c'est l'Égypte hein, qui s'est, avec un grand Mo Salah. Demi-finale, c'est très simple, Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, Égypte. La finale rêvée, tout le monde le sait, c'est Cameroun, Sénégal. On va pas se mentir. J'ai du mal à voir depuis le début de cette coupe comment le Cameroun ne peut pas gagner, mon Pierrot.
Ouais, en tout cas, ils ont toutes les étoiles sont alignées, toutes les planètes et tous les acteurs du football ont aligné les planètes pour que le Cameroun gagne. Cette coupe, elle m'étonne.
Ouais, moi, j'ai un grand coup de gueule. Hein, pas contre les organisateurs ou quoi que ce soit. On sait qu'il y a eu des morts. Hein, on pense notamment à eux. Moi, ce qui m'a affligé, c'est que toute la compétition, les matchs étaient, les stades étaient pleins pour le Cameroun. Hier, Égypte-Maroc, il y a un choc monstrueux sur le continent africain. Il n'y avait personne dans les tribunes. C'est affligeant. Alors, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que les billets étaient trop chers? Est-ce que au Cameroun personne n'est intéressé par cette CAN? Mais il va falloir vraiment se poser des questions. Je sais qu'en Europe on n'est pas exempt de tout reproche, mais il va vraiment falloir se poser des questions sur le déroulement de cette CAN et essayer de réagir rapidement. Je sais pas ce que t'en penses, mais C'est bah,
je partage tout à fait. Hein. C'est, limite, je pense qu'elle fonctionnerait mieux si les matchs étaient joués en Europe. Tant au niveau climatique, ouais, au niveau des conditions. Des
c'est terrains. Vrai, c'est peut-être une piste à aller voir. Hein. C'est, et surtout, je pense qu'il y aurait plus de monde et ça attirerait plus de personnes.
Bah, ce qui est sûr, c'est que quand tu vois le vivier de talent, tu parlais de Salah.
Bien sûr, Salah, Sadio Mané.
Voilà, des joueurs extraordinaires qui aujourd'hui sont suivis par des millions de personnes qui font rêver les jeunes d'avoir une compétition qui oppose tous ces grands joueurs dans des conditions qui sont aussi précaires. C'est quand même assez antagonique, c'est assez ouais, c'est presque surréaliste en fait.
C'est assez surprenant.
Mais bon, et puis après dans le contenu de cette coupe d'arriver en demi-finale sans le Maroc, sans l'Algérie, sans la Côte d'Ivoire, pour parler que de ces trois équipes, bon voilà, c'est quand même assez étonnant dans le déroulé.
Et puis,
les bookmakers vont se régaler pour ceux qui auront misé sur le Cameroun entre autres, mais c'est vrai que on verra la finalité parce que le Cameroun va jouer sa finale. Hein. Cameroun-Égypte, c'est la finale un peu avant l'heure, même s'il faut rien enlever au Sénégal. Mais bon, écoute, on verra.
Mon Pierrot, l'émission touche à sa fin. Je te remercie d'avoir été avec moi pour cette deuxième partie d'émission. C'est un réel plaisir. J'espère qu'on arrivera à t'avoir dans les studios.
Mais oui, ça devrait.
Bon, bah, écoute, c'est une bonne nouvelle. On le rappelle, hein, l'émission qui a été dédiée à la maman de Malek Sherat, hein, qui nous a quittés la semaine dernière. On salue aussi notre Kiki, hein, mon Pierrot, hein, notre Kiki qui est tranquille. Tu es tranquille, sous le soleil de la République dominicaine, avec sa petite femme. Il écoute l'émission quand même. Il est en train d'écouter l'émission. Là-bas, c'est 14h. Il est au bord de la mer et il se fait le luxe de nous écouter. Bah écoute, c'est le patron.
Avec le Sex on the Beach et tout va bien.
C'est exactement ça. Bon, Pierrot, merci à toi. Chers auditeurs, on se retrouve. Merci. On se retrouve la semaine prochaine.
Prenez soin de vous.
Entre 19h et 20h30. Et il a raison, mon Pierrot. Prenez soin de vous. Salut.